Et voilà, 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 voilà.
Je suis content d'ailleurs que vous l'ayez gardé parce que vous avez toute l'attitude de le changer. Vous aurez pu vous mettre notre générique. Donc, temps de durée me fait chaud au cœur.
Dimanche midi, le magazine d'information hebdomadaire de la rédaction centrale radio de la CRT.
Édition du 26 mai 2024, une présentation de Florence Mequeu. Dites-le avec une cuillère en or dans la bouche. Le Cameroun, désormais pays producteur minier.
Le Cameroun est le troisième pays qui a le plus haut potentiel énergétique du continent. L'un des rares pays qui dispose de gisements immenses de bauxite. Et c'est par le bauxite que nous pouvons parvenir à la transformation.
D'ici 6 mois, l'or va être traité seulement dans le système Avasco. Yaoundé a écrit son nom comme un nouveau centre de négociation des finances pour les projets miniers.
Le nouveau statut du Cameroun a été dévoilé au cours de la 4e édition de la Convention internationale des mines et exposition du Cameroun à Yaoundé du 22 au 24 mai 2024.
Les premiers clients sont les Européens engagés dans une phase de transition écologique. Jean-Marc Châtaignier, ambassadeur de l'Union européenne au Cameroun.
En Europe et dans beaucoup de pays dans le monde, on va se passer des voitures à pétrole, des voitures à carburant. Donc on va avoir besoin de ces minerais. Alors nous, on veut travailler véritablement sur un partenariat gagnant-gagnant avec les États, avec les gouvernements, dans la durée, qui travaillent sur des conditions équitables, bien sûr, d'achat de ces minerais.
Urbain Opofiak, directeur général des mines au Congo-Brazzaville.
On ne doit pas seulement répondre à la sollicitation internationale. On doit également faire asseoir une bonne politique de gestion de ces matières premières dans nos différents états. Donc nous devrions également penser à la transformation, mais il nous faut d'abord traiter les questions liées à l'énergie, à la maîtrise ou à la sécurisation des données, mais également des questions liées à la connaissance de notre sous-sol.
Cameroun, scandale géologique en Afrique, ressources minières et ambitions d'émergence, c'est l'événement dans Dimanche Midi, édition du 26 mai 2024. Question à notre invité, comment améliorer la contribution du secteur minier au PIB? Serge Hervé Boyogeno, directeur général de la Sonamine, la Société nationale des mines, est face à la rédaction.
La contribution du secteur minier dans le PIB reste faible malgré ce riche potentiel, moins de 1% selon les prévisions. Qu'est-ce qui justifie, selon vous, monsieur le directeur général, cet état de choses? Le secteur minier est-il miné?
Non, on ne peut pas dire que le secteur minier est miné. Il faut attendre la phase d'exploitation pour pouvoir voir ce chiffre changer. Il n'y a pas de mine industrielle au Cameroun, au stade actuel. Les 1% proviennent de l'exploitation artisanale et artisanale semi-mécanisée de l'or et de la production des carrières. Maintenant, avec le développement des projets industriels de fer qui vont prendre corps, d'or et certainement de bauxite qui va s'ajouter à l'ensemble de ces projets, nous avons foi que ce chiffre va pouvoir évoluer.
Demain peut-être, de l'or pour tous, probablement. Question en débat dans Regard Croisé, comment faire bénéficier effectivement aux populations des retombées de l'exploitation minière? Face à face, un économiste et un expert en politique publique. Entre l'or et la mort, quand s'installe la morgue des femmes qui perdent leur vie en voulant donner la vie? Chaque année, on compte 4000 femmes parmi les Camerounaises qui passent ainsi de vie à trépas.
La majorité des femmes se retrouvent en train de donner naissance à la maison, soit parce que le travail a été rapide. Il peut également arriver que la femme qui a accouché à domicile n'ait même pas suivi sa consultation prénatale.
principales étiologies de mortalité maternelle dans notre contexte sont premièrement les hémorragies. Ensuite, nous avons les maladies hypertensives en grossesse, principalement la pré-éclampsie et l'éclampsie. Et enfin, nous avons en troisième position les infections.
En page jaune de dimanche midi, l'accouchement, première cause de mortalité chez les femmes au Cameroun. Est-il possible d'inverser la tendance? Invité au dossier de la rédaction, Dr Bernard Otabela, gynécologue, obstétricien et sexologue.
Aller à l'hôpital lorsque la femme est enceinte, aller consulter pour avoir les soins adéquats, aller consulter pour avoir les conseils qu'il faut chez les personnels de santé. Les femmes elles-mêmes doivent savoir que la meilleure prise en charge, c'est dans un service de santé, à l'hôpital, pas à la maison.
En ce 26 mai 2024, dimanche midi, souhaite bonne fête et beaucoup de courage à toutes les mères. Aujourd'hui, dimanche, les grands rendez-vous de dimanche midi.
Le JDM.
Le JDM à 13h. Le commentaire de la rédaction, plus de 600 milliards de francs CFA pour payer la dette intérieure et relancer l'économie nationale. Fréquence gouvernementale, les mines comme nouvelle manne de l'économie camerounaise. Conversation avec mon voisin, capture des faits de société sous forme d'éphémérides. Valérie Dicos Oumaru.
Mon voisin est amusé. Il a lu dans la presse de nombreux articles sur une pommade miraculeuse qui serait illégale et en passe d'être interdite de vente. À la manœuvre, l'ordre des pharmaciens. Il regarde d'un mauvais œil cette pommade moins chère qui soigne tout et qu'on trouve partout. Allez savoir pourquoi le baume François fait plus peur aujourd'hui que le Small Nobisic à son époque.
Politique, 52e édition de la Fête nationale de l'unité, les leçons d'une célébration historique et mémorable. Assemblée parlementaire de la francophonie, 30e conférence régionale Afrique prévue à Yaoundé du 28 au 30 mai 2024. Entretien à bâton rompu avec le sénateur Samuel Obama-Sam, vice-président de la sous-commission de l'éducation et de l'APF.
Il s'agit tout simplement de la diplomatie parlementaire. Nous avons bénéficié de l'accompagnement multiforme de l'APF au Cameroun. Par exemple, dans les domaines d'équipement, cet organisme interparlementaire nous a appuyés à travers ses programmes successifs PADOC, NORIA et numérique conçus pour l'assistance au Parlement. La modernisation de notre système de retransmission des informations, plus connu sous le nom de la Web TV, en ce qui concerne l'Assemblée nationale et le Sénat est sur cette voie également.
DM Sport, tournoi Challenge Trophy International Handball Federation, une opportunité pour le développement du handball dans la sous-région Afrique centrale. Ce sera la dernière roupelette de dimanche midi. Mesdames, messieurs, dimanche midi, c'est tous les dimanches de midi à 14h. 120 minutes de décryptage des faits marquants de l'actualité de la semaine avec ceux qui font l'événement sous le prisme de la rédaction centrale radio et son réseau régional de correspondants. Merci, mesdames, messieurs, de rester fidèles au poste national de la CRTV.
Dimanche midi, une présentation de
Florence Meuque.
Le commentaire de la rédaction.
Dette intérieure, le temps de l'apurement. Après le sale temps passé à attendre le règlement de leurs créances auprès de l'État, voici venu pour nombre d'opérateurs économiques du Cameroun le beau temps de l'apurement des arriérés de paiement. Ils sont estimés à plus de 671 milliards
de France CFA. Les paiements vont s'étaler de 2024 à 2030. La bonne nouvelle a été annoncée cette semaine par le ministre des Finances, Louis-Paul Moutazeux. Si elle tient toutes ses promesses, cette mesure va, à coup sûr, contribuer à la relance de l'économie par la reprise des activités en interne. C'est également un acte courageux et salutaire par ces temps où l'État est confronté à quelques difficultés de trésorerie. Le commentaire de la rédaction, dont Dimanche Midi, Joseph Clément Omba.
La nouvelle apporte du baume au cœur de plusieurs opérateurs économiques qui broyaient du noir depuis plusieurs années, parfois contraints, malgré eux, de mettre la clé sous le paillasson ou de déclarer faillite. Et pour cause, la dette que l'État leur devait n'était plus toujours apurée. Le cauchemar est certainement terminé. D'après une note du ministre des Finances, Louis-Paul Moutazeux, signée le 30 avril dernier, l'État va honorer ses engagements. Un plan d'apurement du stock d'arriérés domestiques audités au titre de la période 2000-2019 sera mis en œuvre. 20 années pratiquement pour une faramineuse somme de 671,7 milliards de francs CFA. De quoi rebooster durablement le secteur économique privé et même parapublic, qui semblait parfois battre de l'aile. Ce stock des arriérés validés a une nature plurielle. La dette salariale pour plus de 303 milliards de francs CFA, la dette fiscalo-douanière pour un montant cumulé de 215 milliards, la dette commerciale pour 121 milliards, la dette académique 15 milliards, la dette locative pour 9 milliards, la dette sociale à hauteur de plus de 5 milliards et les indemnisations pour 410 millions de francs CFA. Total général, 671 milliards 743 millions 936 946 francs CFA. Dans le détail également, le montant à verser aux administrations publiques se chiffre à 461,53 milliards. Les collectivités territoriales recevront 15,79 milliards. Les établissements et entreprises publiques, organismes d'émission de services publics, percevront 194,41 milliards de francs CFA. Selon le plan d'apurement des dettes validé, les échéances vont s'étaler de l'année 2024 à l'année 2030. Confronté à des difficultés de trésorerie de toutes sortes, l'État prend ainsi la décision d'apurer des dettes. C'est un acte économique fort qu'il faut saluer à sa juste valeur. Un acte qui montre que l'État camerounais garde intacte sa crédibilité dans un environnement économique et macroéconomique des plus austères. L'État prouve également qu'il reste attentif aux préoccupations du secteur privé. Pour des entreprises privées dont il assure la promotion, l'État demeure le garant et le parent bienveillant.
Autre conclusion que suggère l'annonce du gouvernement, en dépit d'un environnement économique difficile, l'État camerounais tient ses engagements. Joseph Clément.
Florence, nous l'avons dit, l'apurement de la dette de l'État est une claire indication que les pouvoirs publics honorent leurs engagements, malgré les contingences du temps et les pesanteurs de toutes sortes qui s'amoncellent autour du tissu économique. Dans le processus actuel, les méthodes se modernisent également. Ainsi apprend-on qu'en ce qui concerne la dette fiscalo-douanière, l'État entend accompagner les entités publiques débitrices grâce à la prise en charge de la totalité du volume de dette validée sur une période de 7 ans. Attendu aussi un mécanisme budgétaire consacré à travers une convention signée entre la Direction générale du budget et les administrations fiscales. En outre, la modalité d'apurement privilégiée reste le paiement direct par des crédits budgétaires, histoire d'éviter l'accroissement de la dette publique et l'exposition des banques aux risques y afférents. Le ministre des Finances, Louis-Paul Moutazeux, a également mis sur pied une application dénommée DECOSIS, résultante du contrat selon lequel, malgré de lourds efforts consentis par les pouvoirs publics et par l'État pour apurer la dette intérieure, plusieurs départements ministériels enregistrent toujours des réclamations de paiement. Des soupçons de paiement multiples flottent également dans l'air. Cet outil, le DECOSIS, va donc assurer le suivi de la dette flottante, des engagements dont le montant n'est pas toujours maîtrisé par les structures en charge de sa gestion. Par contre, et c'est utile de le rappeler, la dette structurée reste gérée par la Caisse autonome d'amortissement et le ministère de l'Économie. Quoi qu'il en soit, l'État camerounais prouve qu'il demeure le premier agent économique, mais il est également un bon payeur.
C'était le commentaire de la rédaction, une signature de Joseph Clément Omba, à qui nous disons bon dimanche.
Oser le saut qualitatif, passer des potentialités aux réalisations. Telle est la nouvelle orientation de la politique de développement du secteur minier au Cameroun. Telle est la nouvelle impulsion que lui donne le chef de l'État. Objet d'attractivité et de présentation publique, les habits neufs de la politique minière ont trouvé une nouvelle tribune cette semaine à Yaoundé à l'occasion de la conférence des ministres en charge des mines de l'Organisation des pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. À l'ouverture officielle des travaux qui étaient couplés à la 4e édition de la Convention internationale des mines et exposition du Cameroun, le président de la République, Paul Biya, était représenté par le premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dion Nguté. Sur la colline du Palais des Congrès à Yaoundé, ce fut un haut lieu d'échange. Focus dans Dimanche Midi sur se donner à voir et à palper des richesses du sous-sol camerounais. Laurentine Bocono.
De l'or pur entre les mains du premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dion Nguté, et de ses ministres accompagnateurs.
C'est l'or qui est produit au Cameroun. De l'or. Photo.
Des lingots d'or de 2 kg chacun d'une valeur de 80 millions de francs CFA. Des échantillons de calcaire, de bauxite, de manganèse, de lithium et j'en passe. Le long corridor de pierres précieuses ouvert au palais des congrès d'Yaoundé en guise de centre d'exposition a donné à voir et à toucher du doigt les diverses richesses dont regorge le sous-sol camerounais. Seulement voilà, l'heure n'est plus à l'extase ni à l'exaltation. Il est urgent de passer aux réalisations par l'exploitation optimale des gisements miniers qui écument le territoire national.
Sous le très haut patronage du chef de l'État, le Cameroun accueille au même moment deux événements d'une importance majeure. Il s'agit d'une part du Conseil des ministres des Mines des pays membres de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et d'autre part la 4e édition de la Convention internationale des mines et expositions du Cameroun, CIMEC. Deux thèmes seront au centre des travaux. Le premier était ainsi libellé, je cite, « Le renforcement de la coopération entre l'Union européenne et l'Afrique, les Caraïbes et les Pacifiques pour une meilleure stratégie de développement des minéraux critiques de la transition énergétique. » Le second porte sur, et je cite, « de la transition du potentiel géologique à la mise en production des gisements miniers comme moyen de renforcement de la croissance économique dans la sous-région. » L'importance de ces deux thèmes n'est plus à démontrer. Dans un contexte marqué par une demande de plus en plus croissante des matières premières, il est important d'appréhender les immenses richesses de nos pays comme de puissants vecteurs de transformation structurelle de nos économies. Le développement et la consolidation d'une telle démarche reposent sur la mise en place d'un cadre institutionnel approprié et l'implémentation de politiques publiques efficientes. Dans la même veine, l'accent devrait être mis sur la transparence des revenus de l'industrie extractive et la définition d'une stratégie de coopération internationale qui serait profitable à tous. En effet, pour les pays producteurs que nous sommes, il est d'un grand intérêt que les négociations avec les opérateurs des industries extractives débouchent sur une sécurisation des revenus substantiels en compensation de l'exploitation de notre capital naturel. Ces retombées participeraient en conséquence à la constitution des ressources budgétaires nécessaires aux investissements dans le capital physique et humain.
Au fond de la mine se trouve la solution alternative à l'anonymisement des ressources pétrolières, au chômage des jeunes. À cet effet, les approches de partenariat et de collaboration sont à promouvoir sans cesse pour correspondre à l'idéal que se fixe la conférence des ministres en charge des mines de l'Organisation des pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et la Convention internationale des mines et expositions du Cameroun, à savoir la transition du potentiel géologique à la mise en production des gisements miniers comme moyen de renforcement de la croissance économique dans la sous-région. En sa qualité de représentant personnel du chef de l'État Paul Biya, le premier ministre chef du gouvernement s'est réjoui de la convergence d'ambitions Entre les 79 pays membres que compte l'OACP et la vision du chef de l'État de faire passer le Cameroun à fort potentiel minier à pays producteur minier.
Nous avons aujourd'hui une responsabilité partagée dans la prise de décisions appelées à impacter positivement l'environnement économique de notre sous-région. Nous avons une décision cruciale à prendre quant aux options stratégiques devant sous-tendre l'exploitation optimale de nos ressources minérales. Il me semble à ce stade que la transformation des dites ressources devient pour nous une question incontournable et l'industrialisation de nos pays une nécessité. Ces exigences sont en corrélation avec la vision minière pour l'Afrique telle qu'adoptée en février 2009 par les chefs d'État de l'Union africaine dans l'optique de poser les fondements d'une mutation fondamentale dans le cadre de l'extraction des ressources naturelles. Cet engagement au niveau stratégique démontre à suffisance la volonté des pays en voie de développement de relever tous les défis pour faire du développement des industries extractives une priorité.
Toutes les conditions étaient réunies pour faire entendre chants, trompettes et tambours sur ce Cameroun, véritable scandale minier qui ne cessera jamais de surprendre.
Laurentine Bocono, dans Fréquence gouvernementale. Bonne fête des mères à toutes les mères.
Maman,
dimanche midi.
Dimanche midi.
Dimanche midi.
Maman, papa de malatou. Koubayam joutagnon, koubayam joutagnon. Maman, koune mamo, koune mamo. Avion tagnon, kouke l'inamo, koubi mamo.
Dimanche midi, l'événement.
Et demain, le Cameroun, pays producteur des mines. Il a effectué son entrée officielle et solennelle dans ce club très fermé à l'occasion du double événement à dimension internationale que vient d'abriter Yaoundé, la capitale. Il s'agit de la 4e édition de la Convention internationale des mines et expositions du Cameroun et de la réunion des ministres en charge des mines de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Témoin de l'événement qui a eu pour théâtre le Palais des Congrès les 23 et 24 mai, plus de 50 délégations et 60 ministres en charge des mines venus des quatre coins du monde. Le Cameroun, un scandale géologique, potentiel, ambition et réalisation, c'est l'événement dans cette édition de dimanche midi. Le train est lancé, selon le vœu du chef de l'État, Paul Biya, pour assurer le relais des hydrocarbures dont les stocks s'amenuisent et disposer de ressources supplémentaires pour financer les investissements au Cameroun. Parole et priorité aux acteurs en ouverture de ce dossier événement, c'est dans ce reportage que signe Séraphin Djikam.
un bouquet final en or, des pépites, dans les yeux des représentants des pays membres de l'organisation, des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, au moment de la clôture au palais des congrès de Yaoundé, des assises de la Convention internationale des mines et exposition du Cameroun et la réunion des ministres de l'EACP chargée des mines. La CIMEC 2024 aura tenu toutes ses promesses. Professeur Froukalitus Diantri, ministre camerounais par intérim en charge des mines.
Pendant ces 2 jours, les retombées sont énormes. Il y a eu les échanges, on a signé les conventions entre l'Union européenne et le Cameroun, les conventions entre les sociétés d'infrastructure et logistique avec le ministère des mines. Nous avons vu les sociétés qui vont transformer le paysage minier avec les technologies innovantes. D'ici 6 mois, l'or va être traité seulement dans les systèmes à vase clos. Yaoundé a écrit son nom comme un nouveau centre de négociation des finances pour les projets miniers.
Le Cameroun, désormais pays producteur minier, fascine le monde par ses importantes réserves minières non exploitées. Dr Adama Koulibaly, économiste en chef à la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique.
Le Cameroun a tout. L'Afrique centrale détient 63% des énergies du continent. Pour ce qui est du Cameroun, le Cameroun est le troisième pays qui a le plus haut potentiel énergétique du continent. On dit souvent que le Cameroun est un scandale géologique et minier. Eh bien, c'est vrai. Je pense qu'aujourd'hui, il faut faire la part des choses. Le Cameroun est l'un des rares pays qui dispose de gisements immenses de bauxite. Et c'est par le bauxite que nous pouvons parvenir par la transformation aller jusqu'au bout de la chaîne des valeurs du bauxite pour pouvoir disposer de l'aluminium. L'aluminium vient comme le deuxième produit le plus recherché après le fer pour ce qui est de la fabrication de ce que nous appelons aussi les véhicules électriques.
Au rang des autres gisements miniers, la bauxite de Mini Martab. Armand Légine Djamaman, délégué régional des mines de la Damawa.
Les travaux pour la signature de la convention minière sont très avancés et c'est l'élément déclencheur qui est attendu à présent pour donner une nouvelle phase aux travaux qui sont déjà en cours sur le terrain.
La conférence internationale des mines exposition du Cameroun a permis au pays de voir clair sur les projets miniers futurs et ceux en cours. Aristide Mimban, directeur des mines.
Le chef de l'État a donné l'instruction que le pays soit un pays producteur. Il a énuméré trois gisements particuliers, le gisement de fer de Nbalam Nabeba, le gisement de fer de Krébi Lobé qui est exploité par la société Sinosteel, le gisement de fer de la commune de Grand Zambi. Au-delà de ces 3 gisements qui sont déjà en phase d'exploitation, nous avons le gisement d'or de petite mine de Colomine qui est déjà en phase de production, c'est-à-dire les premiers lingots d'or sont déjà produits.
Odilon Obami, conseiller administratif et juridique du ministre congolais en charge des mines.
L'importance, c'est d'abord de permettre le développement sous-régional, c'est-à-dire que 2 pays se mettent ensemble pour développer 2 mines qui sont à cheval entre les deux. Les 2 présidents, leurs excellences Paul Biya et Denis Sassou Nguesso, tiennent énormément à la réussite de ce grand projet, avec aussi le développement infrastructurel. Donc une ligne de chemin de fer de 689 km qui part depuis le Congo jusqu'au port de Krébi pour évacuer les minerais exploités.
La production minière industrielle nécessite de lever un certain nombre de contraintes. Aristide Mimban et Adama Koulibaly.
Les contraintes au niveau du secteur minier camerounais sont beaucoup plus d'ordre infrastructurel. Donc les infrastructures nécessaires à l'évacuation du minerai. Des besoins en termes de rails.
Il faut commencer par l'énergie. C'est une contrainte de taille, mais la bonne nouvelle est aussi que l'Afrique centrale détient 63% du potentiel énergétique du continent africain. C'est une difficulté que nous pouvons surmonter à condition que nous approchions cette problématique de façon collective. Régler le problème énergétique du Cameroun, c'est régler le problème énergétique de l'Afrique centrale.
À l'issue des travaux de Yaoundé, des recommandations ont été prises aussi bien au cours de la Convention internationale des mines et expositions du Cameroun qu'à la réunion des ministres de l'OEACP et l'on note qu'il faut améliorer le cadre normatif en matière minière avec la mise sur pied d'un code minier communautaire, nouer des partenariats avec des institutions universitaires et bancaires et au niveau du Cameroun, encourager la transformation locale des mines et l'exploitation industrielle et contribuer ainsi à renforcer la croissance économique du Cameroun et partant celle de la sous-région Afrique centrale.
C'était un reportage de Séraphin Djikama.
Le Cameroun, à l'image de plusieurs autres pays d'Afrique, le cas de la République démocratique du Congo, de l'Afrique du Sud, du Zimbabwe et de quelques pays des Caraïbes et du Pacifique, dispose d'un sous-sol riche en minéraux critiques. Parmi les plus répandus, le cobalt et le manganèse. Ces matières premières entrent dans la composition des objets de la vie moderne, voitures, téléphones portables, et la liste n'est pas exhaustive. Les pays européens en pleine transition écologique en ont grand besoin, d'où la nécessité d'aboutir à un consensus avec les États africains sur l'exploitation, voire le traitement des dix minéraux. L'enjeu étant la transformation locale de ces matières rares et stratégiques. Pour en débattre à Yaoundé, une soixantaine de ministres des mines relevant de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, de quoi jeter les bases d'un avenir plus vert pour le secteur minier. Un document de stratégie minier élaboré de commun accord par l'Union européenne et les pays producteurs devrait bientôt voir le jour. Conclusion des travaux, Clarisse Ndjanga.
On a longtemps entendu parler d'or, de diamants, de fer. Désormais sur le marché minier international, trônent en vedette les minéraux critiques. Ce sont le lithium, le cuivre, le cobalt, le manganèse, le graphite, la bauxite, le tantale, le nickel. Il y a aussi les éléments de terre rares et les minéraux du groupe de platine. Ces minéraux contenus en grande partie dans le sous-sol des pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique restent faiblement explorés. Ce qui offre des possibilités de recherche. Et les premiers clients sont les Européens, engagés dans une phase de transition écologique. Jean-Marc Châtaignier, ambassadeur de l'Union européenne au Cameroun.
En Europe et dans beaucoup de pays dans le monde, on va se passer des voitures à pétrole, des voitures à carburant. Donc on va avoir besoin de ces minerais. Alors nous, on veut travailler véritablement sur un partenariat gagnant-gagnant avec les États, avec les gouvernements, dans la durée, qui travaillent sur des conditions équitables, bien sûr, d'achat de ces minerais, qui travaillent bien sûr sur les conditions environnementales de leur exploitation, pour que ça ne détruise pas les forêts, les ressources naturelles, sur les conditions sociales pour les populations, qu'on travaille sur des infrastructures routières, des infrastructures énergétiques. Il ne s'agit pas simplement de sortir des minerais de terre et de les envoyer en Europe, comme on les envoie maintenant en Chine, mais c'est de les sortir de terre et d'avoir des premières étapes de transformation locale, des premières usines ici, et qu'on puisse créer beaucoup, beaucoup d'emplois locaux.
Notre entreprise est dans l'exploration de la bauxite pour éventuellement exporter de la bauxite vers les marchés extérieurs. Nous avons également une vision de transformation locale en deuxième phase, si les conditions gagnantes sont réunies, c'est-à-dire de transformer la bauxite localement pour éventuellement en faire de l'aluminium, dont Alucam est un consommateur. On parle d'investissement d'environ 300 millions de dollars américains, une création de 3 000 emplois lors de la phase de construction, au-delà de 1 000 emplois permanents suite à la construction, des retombées économiques d'environ 137 millions de dollars américains par année lorsque nous serons en pleine production.
Pour ne pas se faire duper, l'Afrique doit aller sur le marché de l'offre et de la demande armée. Se défend Urbain Opofiak, directeur général des mines au Congo-Brazzaville.
On ne doit pas seulement répondre à la sollicitation internationale. On doit également faire asseoir une bonne politique de gestion de ces matières premières dans nos différents États. Donc nous devrions également penser à la transformation, mais il nous faut d'abord traiter les questions liées à l'énergie, à la maîtrise ou à la sécurisation des données, mais également des questions liées à la connaissance de notre sous-sol. Enfin, des questions de formation. Parce que si nous ne gérons pas les questions de formation et d'autres questions liées donc à l'encadrement juridique, on risque de se faire avoir par les Occidentaux qui ont suffisamment d'expérience dans la transformation, mais dans l'exploitation également. Ce sont ces sociétés qui font la recherche, déterminent les réserves et nous, on accepte seulement, c'est ça, alors que...
Samuel Guifaud, secrétaire exécutif du Centre pour l'environnement et le développement.
Il y a également parfois le risque pays qui peut être élevé du fait de plusieurs facteurs. Et parmi ces facteurs, il y a le facteur politique dans quelques-uns de nos pays. Il y a une instabilité, il y a des conflits, des guerres civiles ou des risques de guerres civiles qui peuvent pousser des pays dépendants de ces ressources à ne pas vouloir confier à des pays qualifiés d'instables la production de ressources aussi importantes. Parce que si des investissements sont faits pour transformer localement et que le pays sombre dans une guerre civile, par exemple, l'investissement est compromis Mais surtout, l'approvisionnement est compromis et il faut tout recommencer à zéro. Donc, pour un pays qui veut disposer de ressources critiques, qui veut s'assurer que les minerais critiques puissent arriver sur son territoire, ça fait partie des risques qu'il faut étudier pour prendre la décision. Mais la responsabilité de nos États, c'est justement de pouvoir construire le cadre, le contexte qui permette à nos pays de devenir plus attractifs de ce point de vue-là.
Présente aux travaux de Yaoundé, la République de Guinée jouit d'un important potentiel de minerais. Diakité Daouda, directeur national adjoint de la géologie.
Quand on parle de transformation locale, d'abord, il y a les risques sur l'environnement. Par exemple, si on prend la bauxite, on parle souvent de boue rouge. Donc déjà, je crois que la Chine est un peu en avance. Par contre, d'autres pays ont beaucoup de problèmes environnementaux pour gérer vraiment les résidus qui sont issus de cette transformation locale. Mais il faut quand même rajouter qu'aujourd'hui, quand on prend une tonne de bauxite, peut-être le prix moyen $45 à $50. Mais quand la bauxite est transformée, le premier sous-produit, quand on prend l'alumine aujourd'hui, c'est 10 fois plus le montant du produit brut. Et quand on prend l'aluminium également, c'est 10 fois plus. Ainsi de suite. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, il faut aller vers la transformation des produits miniers tout en mitigant l'impact sur l'environnement. On essaie vraiment de gagner profit des sous-produits qui seront issus de la transformation locale pour au moins que la Guinée puisse bénéficier davantage des retombées de ses ressources minières.
La 4e convention internationale et exposition sur les mines au Cameroun a jeté les bases d'une réflexion devant aboutir à l'élaboration d'un document de stratégie nationale des mines. Mais en attendant, Yaoundé devient la capitale de la négociation minière, passant d'un pays à potentiel à un pays producteur.
Dimanche midi, face à la rédaction.
En posture d'invité, Dimanche midi reçoit ce dimanche le directeur général de la Sonamine, la Société nationale des mines, Serge Hervé Boyogeno. Monsieur le directeur général, merci d'être venu dans ce studio, le studio 104 de la CRTV. Bon dimanche.
Merci à vous, Florence Meke. Merci de m'avoir invité ce dimanche.
Monsieur le directeur général, la 4e édition de la Convention internationale des mines et expositions du Cameroun, CIMEC, s'est achevée vendredi dernier à Yaoundé. Quelles sont les grandes lignes à retenir au sortir de ces assises?
La Convention internationale des mines et exhibitions du Cameroun est une activité qui se situe au plein cœur de l'objet social de la Sonamine, c'est-à-dire développer et promouvoir le secteur minier. Pour cette 4e édition, il faut retenir une participation de la presque totalité des sociétés minières en phase d'exploration et certaines en phase de développement et de construction de la mine au Cameroun qui ont pris part à ces assises. C'était une plateforme unique pour retrouver toutes les sociétés qui exercent au Cameroun à un niveau assez avancé, partager avec ces sociétés sur l'état d'avancement de leurs projets. Certains projets ont d'ailleurs fait l'objet d'une annonce par le chef de l'État. Il était question lors de ce CIMEC de présenter ce potentiel. Lorsqu'on vous dit de bouche que le Cameroun a un grand potentiel, ce n'est pas souvent facile de se l'imaginer. Alors, vous avez pu certainement apercevoir le premier ministre chef du gouvernement soupeser des lingots d'or qui étaient exposés au site de la Sonamine. Question de montrer à tous ceux qui étaient là que le Cameroun est un pays très riche en or.
Visiblement, le Cameroun roule sur l'or. Quels sont les grands projets miniers qui bénéficieront d'une plus grande visibilité au cours de cette année 2024?
Je prendrai par exemple les projets qui ont été annoncé par le président de la République, son Excellence Paul Biya, pour lequel nous mettons sur le terrain une attention particulière. Nous avons le fer de Grand Zambie, porté par la société Gestone, qui est en phase de développement avancé, très avancé d'ailleurs. Je pense que le petit souci que l'entreprise rencontre en ce moment, c'est l'approvisionnement en énergie pour pouvoir démarrer l'exploitation. Vous avez le fer de Lobé-Kribi également, qui mérite une attention particulière. Vous avez le fer de Mbalam, qui est à cheval entre le Cameroun et la République du Congo. C'est un appel d'ailleurs, le fer Mbalam-Nabeba. Vous avez le projet d'or de Colomine, porté également par une société à 100% détenue par des Camerounais. Et vous avez deux projets très intéressants de production de calcaire et de marbre à Figil, c'est dans la région du Nord, porté par les cimenteries du Cameroun pour les besoins de production du ciment. Voilà des projets qui sont en phase d'exploitation, qui détiennent déjà des permis d'exploitation sur lesquels nous allons mettre un regard particulier. Mais à côté de ces projets qui bénéficient déjà de permis d'exploitation, il y a certains projets dont il faut rapidement accompagner mis en phase d'exploitation. Mmh. Je pense à la bauxite de Mini-Martap et Ngaoundal, dont le promoteur a pris l'engagement de transformer la bauxite en alumine, parce que notre fleuron de l'industrie, qui est la société Alucam, en a grand besoin. Je pense au fer de Ngouvayan, porté par la société Kamina. Je pense à deux autres projets d'exploitation d'or. Le chef de l'État en a fait un point d'honneur sur l'or pour pouvoir accompagner l'économie du pays. L'or à Batouri, porté par la société James Kodias, et puis l'or de Mborguené, porté par la société Kaminko. Également, il y a le projet de rutile de la Konolinga qui devrait être relancé, mais ce projet doit être relancé également par la Sonamine.
Le Cameroun est passé de pays à fort potentiel minier au statut de pays producteur minier. Vous qui êtes à la tête de la Société nationale des mines, c'est le relais assuré des hydrocarbures. Quel en sera l'impact sur l'économie nationale?
La différence qui existe entre le secteur de la mine solide et celui de la mine liquide pour le Cameroun, parce qu'au niveau du Cameroun, l'exploitation pétrolière est offshore. Dans certains pays, vous avez des exploitations onshore. Lorsque l'exploitation est faite de manière offshore, comme c'est le cas pour le Cameroun dans le secteur pétrolier, l'impact n'est pas directement visible au niveau des populations parce que l'exploitation est en mer. Mais dans le cadre de l'exploitation de la mine solide, il y a d'abord toute une ville minière qui se crée autour des exploitations. Donc, en dehors de l'impact que cette activité va générer sur l'économie, il y a déjà l'impact sur l'environnement, même le lieu d'exploitation qui va connaître une véritable transformation. On aura ce qu'on appelle généralement les villes minières. Si vous faites un tour du côté de Grand Zambi, vous trouverez de vastes espaces qui sont déjà mis à découvert par la société qui évolue. Sinosteel est en train de refaire pratiquement tous les ponts qui vont de Kribi jusqu'à son site d'exploitation. C'est dire qu'en dehors de l'impact que l'économie du pays va ressentir, il y aura également un impact très visible sur le terrain avec la création des villes minières tout autour de l'ensemble des projets miniers qui vont démarrer.
La contribution du secteur minier dans le PIB reste faible malgré ce riche potentiel que vous venez d'évoquer, moins de 1% selon les prévisions. Qu'est-ce qui justifie, selon vous, monsieur le directeur général, cet état de choses? Le secteur minier est-il miné?
Non, on ne peut pas dire que le secteur minier est miné, mais ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'en 2022, date de signature de 3 permis d'exploitation pour le fer et également un permis d'exploitation pour l'or, il n'y avait pas de mine industrielle au Cameroun. D'ailleurs, ces permis d'exploitation qui ont été signés en 2022 sont en phase de développement. Il faut attendre la phase d'exploitation pour pouvoir voir ce chiffre changer. Donc, il n'y a pas de mine industrielle au Cameroun, au stade actuel. Les 1% proviennent de l'exploitation artisanale semi-mécanisée de l'or et de la production des carrières. Voilà pourquoi ce chiffre est faible, parce que l'essentiel de l'activité minière au Cameroun se résume à l'artisanat et à l'artisanat dit peu mécanisé. Maintenant, avec le développement des projets industriels de fer qui vont prendre corps, d'or et certainement de bauxite qui va s'ajouter à l'ensemble de ces projets, nous avons foi que ce chiffre va pouvoir évoluer. On parlera plus de moins d'1% de contribution du secteur minier au PIB. Ces chiffres vont évoluer parce que nous nous préparons à rétrocéder dans les prochains jours à l'État du Cameroun, certainement à travers la caisse de dépôt et de consignation, 350 kilos d'or qui vont chercher au-delà de 16 milliards de francs CFA.
La problématique du traitement des minéraux critiques était au cœur de la conférence internationale de Yaoundé. Faut-il traiter les minéraux stratégiques en Afrique ou poursuivre les exportations à destination des États de l'Union européenne? Au stade actuel, monsieur le directeur général, notre pays a-t-il les ressources nécessaires pour procéder à l'exploitation locale des minéraux critiques?
Il s'agit du cobalt et du manganèse dans la localité de Lomié. Il faut d'ailleurs dire pour l'information des auditeurs que le Cameroun détient la plus grande réserve mondiale de cobalt latéritique qui est à Lomié et qui fait l'objet d'un permis d'exploitation depuis 2003. Le ministère des Mines nous a annoncé la venue d'un nouveau partenaire dans le projet. Nous espérons et nous avons foi que si le partenaire est ce qu'on le dit, cette exploitation pourra enfin voir le jour. Mais à côté des autres minéraux critiques au Cameroun se retrouvent en stade d'indice. Il y a des sociétés qui ont déjà bénéficié des permis de recherche sur ces indices. Et avec la nouvelle politique qui est mise en place, il est question de pouvoir transformer ces substances sur place, ne plus les exporter, mais avoir une véritable transformation sur place au niveau du Cameroun.
Parlons à présent du cadre juridique qui entoure l'exploitation minière au Cameroun. Le nouveau code minier vous confère, de l'avis de certains investisseurs, des compétences énormes. Quelles sont les principales innovations contenues dans ce code?
Lorsque nous avons été portés à la tête de la Société nationale des mines, on nous a dit que la Sonamine est le pendant de la SNH dans le secteur de la mine solide. Nous n'allons ménager aucun effort pour copier ce qui se passe de bien dans le secteur pétrolier pour l'implémenter dans le secteur de la mine solide. Puis maintenant, en termes d'innovation, il faut dire que le chef de l'État a voulu impliquer les Camerounais dans l'activité minière. Donc, l'une des premières innovations, c'est que l'exploitation des carrières par le passé pouvait se faire à 100% par des étrangers. Avec la loi de 2023, il n'est plus possible. Il faudra au moins 35% des nationaux dans toute exploitation de carrière au Cameroun. Ça, ce n'était pas possible par le passé. L'exploitation artisanale a été renvoyée aux mairies. Les mairies ont maintenant la gestion totale et complète de l'activité d'exploitation artisanale, de toutes les substances, aussi bien les substances de carrière que les autres substances, l'or, le diamant. On n'aura plus besoin de se ramener du côté des Yaoundé pour bénéficier d'une autorisation d'exploitation artisanale si vous êtes sur le terrain. Maintenant, l'une des grandes innovations de la loi, c'est la notion de partage de production. Par le passé, l'État attendait les dividendes des sociétés minières, 10% de dividendes, mais l'on a ajouté à cette notion le partage de production, qui est de 1 à 5%. Nous comptons sur cette notion pour pouvoir élever le chiffre d'1% dont vous avez fait allusion tout à l'heure. Également, nous pouvons citer comme innovation majeure de la loi la notion d'autorisation d'exploitation des rejets. Les rejets n'existaient pas par le passé. Au jour d'aujourd'hui, on peut vous autoriser à exploiter les rejets. À travers la nouvelle loi portant code minier, il n'est plus possible d'exporter de l'or brut du Cameroun. L'or sorti du Cameroun doit être affiné et extampillé par l'organisme public dûment mandaté qui est la Sonamine. D'ailleurs, dans ce cadre, la Sonamine a déjà acquis tout le matériel d'extampillage. Nous avons également acquis 1 hectare de terrain pour la construction d'une raffinerie qui va permettre l'affinage de l'or. Il faut dire également que par le passé, les permis de recherche n'étaient pas adossés à un cahier de charges. Maintenant, lorsqu'on vous attribuera un permis de recherche, il sera collé à ce permis de recherche un contrat de recherche qui permettra à l'État de veiller tous les 6 mois que vous faites exactement ce que vous avez dit, que vous allez faire sur le terrain et que vous dépensez exactement ce que vous avez annoncé devoir dépenser sur le terrain. Également, l'audit des titres qui se faisait avant par un cabinet ne se fera plus par un cabinet parce que la nouvelle loi portant code minier a donné place à une plus grande présence de l'État sur le terrain.
De belles perspectives en somme, monsieur le directeur général. Votre mot de la fin au sortir de cet entretien?
Le secteur minier camerounais a de très beaux jours devant. Nous appelons juste un travail main dans la main avec toutes les administrations et les structures concernées pour pouvoir amener le secteur minier au rang de pilier de notre économie. Je voudrais dire à toutes les cimenteries qui sont installées au niveau du Cameroun et qui importent le clinker pour la production du ciment que la Sonamine a mis en évidence 40 millions de tonnes de calcaire dans la localité de Sikoum, entre Edea et Douala, titré à 44% d'oxyde de calcium, donc qualifié pour la production du clinker pour pouvoir alimenter la totalité de ces cimenteries, parce qu'en 2022, le Cameroun a importé pour 200 milliards de clinker, dont la Sonamine expert pouvoir produire du clinker pour approvisionner ces cimenteries.
Merci, monsieur le directeur général. Dimanche midi, recevait ce dimanche Serge Hervé Boyogeno, directeur général de la Sonamine, la Société nationale des mines. Merci d'avoir été des nôtres.
C'est moi qui vous remercie.
Bon dimanche.
Merci, bon dimanche à vous également.
Dimanche midi, place au regard d'experts.
La Convention internationale des mines et expositions du Cameroun a donc permis aux pays hôtes de conforter son statut de producteur minier. Retombées économiques attendues donc, mais de quelle manière les populations à la base pourraient-elles bénéficier de la manne qui vient du sous-sol? Regard croisé s'interroge. Sardi Lawane, bonjour. Je vous laisse en compagnie de vos invités.
Bonjour Florence, ce dimanche nous sommes en compagnie de François Sambambono, il est expert en politique publique, et de Edmond Kouaté qui est économiste. Messieurs, bonjour et merci d'être avec nous ce dimanche.
Bonjour, bonjour Ferdi et bonjour à tous vos auditeurs.
Cette semaine s'est tenue à Yaoundé la conférence internationale des mines et expositions du Cameroun CIMEC. De nombreux ministres africains en charge du secteur minier étaient présents et le Cameroun a avec fierté a affirmé sa position de pays producteur. Et bien entendu c'est une bonne nouvelle pour l'économie nationale, pour les populations aussi qui d'ailleurs attendent de cela davantage de prospérité. Déjà, messieurs, être en position de producteur, qu'est-ce que cela change, François Sambambono?
Premièrement, vous avez vu que l'un des thèmes de cette conférence internationale, c'était passer du potentiel d'un pays potentiellement riche à un pays producteur. Qu'on rentre effectivement dans une sorte de transformation structurelle et qui va donc apporter une sorte de plus-value au pays. Donc, il y a espoir derrière, sauf qu'il faudra simplement bien monter les projets, bien les suivre pour que le pays retrouve les lettres de noblesse.
Edmond Kouyaté.
Alors, vous savez, si vous aviez suivi l'adresse du chef de l'État au 31 décembre 2022, il avait affiché et assumé la volonté du Cameroun d'entrer dans l'exploitation minière. Et puis, vous avez un ensemble de secteurs miniers qui se développent, notamment le fer avec le gisement du Kribi. Vous avez également le projet conjoint qui est en train de se développer avec le Congo et qui va apporter une plus-value assez importante. Vous avez un chemin de fer, un double linéaire qui va se construire entre le site d'exploitation et le port de Kribi. Vous avez un ensemble de projets qui vont se réveiller. Donc c'est pour dire qu'au jour d'aujourd'hui, le Cameroun a compris que pour davantage mieux structurer son tissu macroéconomique, il pourrait compter sur son sous-sol.
François Sambambono, en matière de politique publique, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que les populations qui sont dans nos villages et même dans nos villes ressentent vraiment qu'on est passé d'un statut de producteur potentiel à un statut de producteur effectif?
Mais c'est pour ça qu'il y a dans le nouveau code minier qui a été adopté en 2016 et qui a été dernièrement d'ailleurs revu. Et il faut comprendre qu'il y a une partie liée au contenu local. Et c'est dans cette partie contenu local qu'il n'y avait pas avant et qu'il y a aussi inscrit dans les conventions, parce qu'avant, c'était les cahiers des charges. Maintenant, on demande d'intégrer le contenu local. Dans le contenu local, il y a la perspective de la responsabilité sociétale et sociale de l'entreprise. C'est-à-dire que vis-à-vis des employés, mais aussi vis-à-vis des riverains qui habitent justement les contrées où les exploitations sont faites. Mais aussi, il y a un aménagement qui a été fait pour que les populations qui exploitent ou les locaux qui travaillent dans ces sites miniers, qui se doivent d'abord non seulement faire partie des ouvriers de ces différents sites et entreprises minières, mais en même temps que celles-ci sachent reprendre les avantages de ce côté. Parfois, on a vu dans la zone de Pétaro, on a demandé par exemple qu'on n'ait plus des maisons avec des toiles en paille. Aujourd'hui, quand vous repartez, vous voyez des maisons en dur, des exploitants miniers, artisanaux, avec des toitures effectivement en zinc, autres. Ça, ce sont des aspects palpables, concrets. Sauf que il faut beaucoup plus aujourd'hui regarder dans la stratégie du gouvernement qui veut d'abord commencer par toiletter l'ensemble des textes juridiques qui encadrent ces activités-là. Maintenant, il est question donc d'implémenter avec l'apport de l'ensemble des partenaires en améliorant les infrastructures. Parce que quand on parle d'infrastructures, le chemin de fer va être posé pour les Camerounais et surtout au-delà du fait qu'il va bénéficier aux entreprises qui vont faire convoyer le fer jusqu'au port, il y a à côté des voyageurs qui vont bénéficier justement de ce même chemin de fer. S'il y a des routes, s'il y a des génériques, aujourd'hui, vous voyez que nous avons des écoles, nous avons trois grandes écoles aujourd'hui qui s'intéressent à l'ingénierie minière. Tout cela participe à l'intégration dans la mentalité de la plupart des Camerounais du fait qu'il y a un nouvel horizon. Il ne faut pas que nous rations le coach, comme on avait raté le coach pendant la période de pause du pipeline Tchad-Cameroun notamment, avec une absence criarde des ingénieurs qualifiés en tuyauterie. Et il faudra aller plus loin en intégrant que la plupart des politiques doivent être orientés vers la recherche des financements, mais aussi vers la sécurité des investissements qui seront faits par les opérateurs pour que ceux-ci appellent. Aujourd'hui, c'est les juniors qui cherchent les marchés, qui cherchent les gisements, pour que les majors, les grandes entreprises de renom, viennent maintenant exploiter.
Edmond Kouyaté, comment faire pour que cette manne ne bénéficie pas seulement aux entreprises et à quelques personnes bien placées, entre guillemets?
Quand je suis le narratif de mon co-débattant du jour, je souhaite surtout pas qu'on retombe dans les mêmes erreurs. C'est-à-dire que lorsqu'il dit qu'il y a un programme qui est placé sous la responsabilité des exploitants, à savoir le développement social à travers la construction d'un ensemble d'infrastructures de base, je crois qu'on a souvent fait ces erreurs-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces sociétés-là, très généralement, c'est des sociétés extrêmement capitalistes. Il me semble qu'il faudrait plutôt que le gouvernement mette en place une stratégie assez claire pour récolter les ressources dédiées à l'investissement social, que l'on dise effectivement, après calcul, que l'on crée, comme on le fait souvent, un compte d'affectation spéciale. Et la gestion va être faite de manière transparente et claire, de manière fait en sorte qu'in fine, qu'un inventaire puisse être fait de dire telle école, telle infrastructure de base, c'est le fruit, c'est la résultante d'une politique socio-économique qui a été pensée à travers et accolée sur tel projet de développement. Donc il faudrait qu'il y ait une politique bien pensée pour pouvoir capter les fonds, la quotité qui va être déduite de cette activité minière-là pour permettre le développement socio-économique des localités où l'activité se mène. Une autre chose, il faudrait, pour qu'on bénéficie véritablement de la plus-value que cela va apporter, plus-value en termes d'emploi, qu'il y ait une véritable politique qui soit mise en place et qui soit suivie. Par exemple, les sous-traitances que les entreprises camerounaises auront à faire là-bas, il y a un ensemble d'activités connexes qui va tourner autour de la grande activité et qui peut être cédée aux locaux. Il faudrait également qu'à ce niveau, que l'État joue son rôle d'interface entre d'une part les petits entrepreneurs locaux et ces grandes firmes d'exploitation, de manière à ce que, effectivement, la part de sous-traitance qui va être cédée à nos entrepreneurs locaux soit effectivement cédée et à un prix raisonnable. Parce que très souvent aussi, même quand ces entreprises-là vont céder, ils décident par exemple de la mercuriale et c'est eux qui décident les prix à payer. Ça fait en sorte que les entrepreneurs locaux ne trouvent pas toujours leur compte.
François Samambono, est-ce que les entreprises camerounaises sont prêtes?
Avant de répondre à votre question, bien entendu, M. Edmond peut dire des choses qu'il faut peut-être remettre les choses dans leur bon ordre. Je rappelle qu'il y a tout un comité au sein du ministère des Mines, un comité d'ailleurs qui est interministériel. C'est une plateforme qui associe à la fois les communes, le trésor, les populations riveraines avec les chefferies, les représentants même des populations et qui se tient régulièrement pour évaluer la mise en œuvre des recommandations. C'est pour ça que dans le nouveau code minier de 2016, on a intégré le contenu local. Ce qu'il n'y avait pas avant, d'ailleurs, vous savez qu'il y a une convention type qui a été prise en 2012 à l'aube de celle de Mbalam aujourd'hui, qui est pratiquement en train d'être mise en place, qui a été considérée comme étant la convention type au niveau de l'Afrique subsaharienne parce qu'elle a été solidement montée avec des intérêts des populations qui sont garantis. Et au-delà de ça, il y a des mesures gouvernementales qui sont mises en place pour veiller à ce que les intérêts des populations soient garantis. Les communes prennent une part active. Il y a des pourcentages, des systèmes de quotas à l'intérieur pour que chacun sache où est-ce que l'argent qui résulte de l'exploitation qui est faite sur son sol. En dehors de ces aspects-là qui sont à la fois fiscaux et sociaux, il y a que, au sein du gouvernement, on va le dire comme ça de façon générale, il y a une logique non seulement de passer de l'exploitation artisanale à la petite mine. On a lancé dernièrement un projet de petite mine du côté de Colomines avec une entreprise qui a été effectivement dans le sens de faire une production inclusive, c'est-à-dire que tout le système est clos. On promeut dans ce système clos qui est un système aujourd'hui apprécié dans la plupart des pays de tradition minière. Donc je voulais d'abord préciser cela. Maintenant, très clairement, les Camerounais, d'ailleurs, c'est pour ça que j'évoque la société qui a mis en place le système clos au niveau de Colomines pour l'exploitation de l'or. Donc on lave, on retire, l'eau qu'on retire va être utilisée dans d'autres temps, on relave, ainsi de suite. Ça veut dire qu'on protège à la fois l'environnement, on permet qu'il n'y ait pas de pertes, qu'il y ait un minimum de pertes. Donc c'est une société d'un Camerounais qui est à la tête et maintenant qui a pris des partenaires techniques qui viennent l'aider. Et c'est pour ça que nous disons aussi qu'aujourd'hui, l'appropriation par les Camerounais de la logique du gouvernement de mettre en exploitation les richesses du sous-sol est importante. Le président de la République a fait appel et beaucoup de Camerounais s'y sont lancés. Si vous étiez au CIMEC, vous auriez vu qu'il y a plusieurs Camerounais qui sont impliqués et qui ont des parts dans la plupart des entreprises qui exploitent à la fois que ce soit du côté de Tibéni où le projet est très avancé, que ce soit du côté même de Mbovayan où on a une autre structure aussi qui exploite aussi de ce côté. Et même quand vous venez du côté de Jovic, vous savez que les atermoiements qu'il y a eu, c'est aussi parce que la partie camerounaise revendique une certaine prise en charge d'un certain nombre de choses. C'est dire que les Camerounais sont impliqués absolument à l'intérieur de la plupart des projets. Et il y a beaucoup de Camerounais qui sont formés à l'étranger, en Australie, au Canada, qui sont revenus et qui, d'ailleurs, vous avez vu du côté de Mbalam, c'est un Camerounais qui conduit le cabinet qui est en charge d'accompagner le gouvernement, M. Diam. Donc, vous avez compris que, quelque part, il s'agit d'abord d'un patriotisme qui a été mis en avant.
Edmond Kouyaté, les Camerounais sont prêts. Il y a un tissu d'entreprise qui peut faire face aux défis de la transformation locale. Mais sauf qu'il y a également un autre défi qu'il faut relever, c'est celui de l'énergie. Parce que la métallurgie, la sidérurgie, tout cela demande de l'énergie.
C'est c'est un secteur qui est extrêmement énergivore. Si on veut envisager des perspectives d'installation d'un ensemble d'industries, il faudrait que nous soyons capables, n'est-ce pas, de pouvoir satisfaire la demande en énergie dans ce secteur. Le Cameroun, lorsqu'il envisage une telle perspective d'exploitation minière, devrait faire un package. Au moment où ces grandes unités d'exploitation minière s'installent, on devrait accoler à cela un programme d'installation d'infrastructures énergétiques. Je pense que le Cameroun a un gros potentiel coélectrique qui a été inventorié depuis 1975 et qui dit qu'aujourd'hui, le Cameroun, en termes de potentiel hydroélectrique, a 25 000 MW. Aujourd'hui, nous n'utilisons moins de 5% parce que l'énergie hydroélectrique au Cameroun aujourd'hui, c'est à peu près 930 MW, c'est-à-dire qu'avec tout ce que nous avons comme base, Vertical va porter ça à un peu plus de 5% parce qu'on sera à peu près à 1300 MW, mais le potentiel, c'est 25 000 MW.
Il est temps pour nous de mettre un terme à cet échange de regards croisés. François Samambono, merci.
Je vous en prie.
Edmond Kouaté, merci également à vous.
C'est moi.
Bah, écoutez, on va remettre l'antenne à Florence Meke pour la suite de dimanche midi. Bon dimanche à tous.
Merci Sardi Lawane et bon dimanche à nos invités. Mesdames, Messieurs, c'est l'heure du JDM, une présentation de Gilles-Claude Mbong et Tundi. Bonjour Gilles.
Bonjour Florence Meke, bonjour à tous. Au sommaire du JDM, un bouquet de tendresse en l'honneur de celle qui donne la vie. Ce 26 mai, jour de fête des mères, symphonie de gratitude et d'affection pour ces braves dames qui nourrissent le corps et l'âme et qui bâtissent l'avenir. À suivre dans ce journal et puis en sport, les 3000 athlètes des Jeux universitaires en piste pour décrocher l'or. Depuis le coup d'envoi donné hier à Garoua, la compétition bat son plein, fait le point en fin du journal. Bienvenue à tous, c'est une date au cours de laquelle les enfants du monde entier entonnent en chœur l'hymne de l'amour et de la tendresse en l'honneur de leur mère. Ce 26 mai, c'est la fête des mères, célébrer ces reines du foyer, ces piliers inébranlables de nos vies à un goût de gratitude et de reconnaissance. Gardiennes des traditions, nourricières du corps et de l'âme, confidentes éternelles. Et pour leur témoigner de la tendresse en ce jour, chacun y va de son ingéniosité, comme vous allez l'entendre dans ce reportage de Bernadette Mossoman.
La fête des mères est l'occasion idéale pour Fanny et Stéphane pour redire à leur maman combien ils les aiment.
C'est l'occasion pour moi de lui dire que je me rends compte des sacrifices auxquels elle a consenti et auxquels elle continue de consentir pour que nous soyons à l'aise, nous, ses enfants.
La célébration de la fête des mères, pour moi, c'est réitérer à celle-ci qu'elle est l'être le plus important pour moi.
Mais du point de vue de Doris, elle aussi, maman, il n'est point besoin d'un jour pour célébrer sa génitrice.
J'estime que c'est pas en une journée qu'on va célébrer sa mère. Pour moi, c'est chaque jour.
Au-delà des grandes envolées lyriques de cette journée, l'amour se traduira également par de petites attentions.
Puisque maman n'est pas à côté de moi, je l'appelle, puis j'essaye, si j'ai les moyens, de lui envoyer quelque chose pour qu'elle passe un bon moment.
Ce jour, je peux offrir à boire à ma mère ou alors le pain dédié à cette journée.
En cette journée qui lui est dédiée, ne manquez pas de lui redire à quel point elle est spéciale. Bonne fête des mères à toutes les mamans.
De l'amour à revendre pour les mères, mais aussi de l'amour à donner aux emblèmes de la République. La campagne de citoyenneté initiée par la Fondation Cœur d'Afrique vise à sensibiliser aux valeurs citoyennes et civiques. L'administrateur à la Fondation Cœur d'Afrique, Joseph Atangana Zanga, est au micro de Julien Gambi.
La Fondation Cœur d'Afrique, accompagnée du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique et des partenaires sous l'égide de l'ambassadeur itinérant Albert Roger Milac, vous l'avez vu ces derniers temps sur le terrain, en train de sensibiliser sur les questions de citoyenneté. Nous venons de célébrer l'unité nationale. Tout cela contribue à consolider une citoyenneté républicaine, une citoyenneté associative, une citoyenneté sportive. Nous avons des outils de sensibiliser les citoyens pour leur dire, voilà l'action urbaine, participer, n'est-ce pas. N'hésitez plus les ordures, nettoyez vos poubelles, respectez les emblèmes. L'action étatique est découlée aussi dans l'action de la citoyenneté. Maintenant, nous appuyons cette action par la campagne, par les assises nationales. Ça fait partie des initiatives qui viennent renforcer cette dynamique et qui pourront donner donc une grande visibilité pour le Cameroun.
À Yaoundé, 30e Assemblée régionale Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Les délégations qui prendront part aux travaux du 28 au 30 mai 2024 à Yaoundé arrivent progressivement dans la cité capitale. À noter la présence en terre camerounaise de Francis Drouin, le président de l'APF. Il réagit à l'accueil reçu à son arrivée au micro de Julienne Polngono.
L'accueil camerounais est toujours chaleureux, alors je tiens à remercier tous ceux et celles qui m'ont accueilli. C'est des amis que je connais depuis de longues dates, des liens d'amitié, des liens de diplomatie qu'on a créés à travers l'Assemblée parlementaire de la francophonie. On travaille très bien avec le Cameroun pour s'assurer qu'il y a une transition au sein de l'APF. Et pour ma part, j'ai toujours misé sur le fait que la région de l'Afrique était toujours importante pour moi. Comme vous pouvez voir, je suis encore deux ans passés, je disais que j'étais encore un jeune président et j'ai peut-être un peu plus de cheveux gris aujourd'hui, mais toujours encore jeune et l'avenir de la francophonie avec la jeunesse sur le continent d'Afrique est important pour moi.
Près de 5 milliards sur les 7 milliards de francs CFA initialement adoptés par le Conseil régional de l'extrême nord en 2023 ont permis le financement des projets d'éducation et de santé publique. L'annonce a été faite cette semaine au cours de la session ordinaire de ce conseil qui s'est tenue à Maroua. Nicole Massai de CRTV Extrême Nord.
En 2023, près de 5 milliards de francs CFA ont été investis dans les secteurs de l'énergie, de l'éducation, des infrastructures routières et des ouvrages de franchissement, ainsi que dans l'élevage et l'agriculture par le Conseil régional de l'extrême nord. Daniel Kalbassou, président du dit conseil.
Nous avons mis l'accent sur le social, les écoles ou du moins les établissements secondaires qu'on a équipés, les hôpitaux de districts, de régions. Maintenant, nous voulons passer à la lutte contre la pauvreté et développer.
Les travaux de la session ordinaire consacrée à l'examen des comptes de l'exercice 2023 ont permis de prendre des engagements pour la poursuite de la mise en œuvre du plan régional de développement.
Les résolutions, c'est approuver d'abord les comptes administratifs et les comptes de gestion. Maintenant, approuver aussi l'emprunt, le crédit que le FECOM a mis à notre disposition de 1 milliard et approuver tous les projets ou les partenariats que nous devons avoir avec certaines structures telles que la Chambre de commerce.
Un déploiement salué par le gouverneur de la région, Midiawa Bakari, présent au cours des travaux. Maroua, Nicole Massai, CRTV.
Plus de 1200 jeunes frappent aux portes du cycle A de la National School of Local Administration pour l'année académique 2024-2025. La phase écrite du concours s'est refermée ce dimanche à Bouéa. Stéphane Tala.
Un peu plus de 1200 candidats pour 200 places au cycle A de la NASLA, filière administration générale et gestion des politiques sociales puis économie des finances locales. Dans les salles, la concentration est au rendez-vous et les épreuves culture générale, droit public, économie et langue abordables pour les candidats.
J'ai un peu de confiance en ce que j'ai écrit. J'espère être à NASLA en ce temps.
Il s'agit des questions d'actualité, surtout l'économie. On demande si on peut réussir la politique de l'impôt-substitution sans la production et la transformation locale.
Sur les deux sites qui abritent le concours, la discipline est de rigueur, relève le directeur général de la NASLA, Tanyetiku Eno Achobaye.
La plupart des candidats sont là, des candidats qui étaient à l'heure le matin, qui savent bien que l'heure de l'après-midi, c'est 12h30. Certains sont arrivés après 12h30. Ils ont aussi été interdits d'accès.
Ces épreuves déclenchent ainsi le processus d'admission de la deuxième vague d'apprenants pour la formation initiale.
Après le cycle A, nous allons enchaîner avec le cycle B et ensuite le cycle C. Et après cela, nous passerons à la correction des épreuves pour les trois cycles en même temps.
Les candidats déclarés admissibles seront fixés sur leur sort au terme d'une phase orale. Les dates et horaires de passage seront déterminés dans une décision du directeur général de la NASLA.
Boya, Stéphane Tala, CRTV.
En sport, deuxième journée de compétition pour les Jeux universitaires 2024 de Garoua. La course aux médailles est lancée avec plus de 3000 athlètes qui représentent les 24 institutions publiques et privées et de l'enseignement supérieur. Retrouvons notre envoyé spécial à Garoua, Samuel Désiré Ayan. Bonjour Samuel.
Bonjour, merci de nous retrouver sur le terrain de basketball du Sénagès de Garoua, transformé en une véritable foire. Ici se déploient pas mal de sports collectifs et individuels, le basketball, le volleyball, le football et le judo. Pour le moment, pas possible de parler de tendances puisque la compétition est encore à l'étape de la phase de groupe pour certaines et aux éliminatoires pour d'autres. Les premières fumées blanches apparaîtront d'ici mardi, jour à partir duquel les premières finales vont intervenir. Mais déjà, belle ambiance de carnaval orchestrée ici par les fan clubs. Ça promet aussi dans les arènes où les joutes sont d'un niveau relevé, si l'on s'en tient au dire des officiels avec qui nous avons échangé. Alors, ça joue ici au Sénagès. Sachez que les émotions fortes, il y en a aussi sur les autres sites, le Parcours Vita, le campus de Djoumassi et le stade Rumdeadja, entre autres. Rumdeadja, justement, l'antre mythique, accueille les compétiteurs d'athlétisme à suivre. De ce côté-là, la course, les courses de vitesse et de fond, sans oublier les concours. Les premières médailles seront décernées là-bas d'ici la fin de la journée. En direct du Sénagès de Garoua, Victor Bala, Temenge et Samuel Désiré Ayan, envoyés spéciaux de la CRTV au 24e jeu universitaire à Garoua.
Merci Samuel Désiré Ayan. C'est la fin du JDM, mesdames et messieurs. Je vous laisse en compagnie de Florence Mequeux pour la suite de Dimanche Midi.
Et c'était le JDM, une présentation de Gilles-Claude Mbong et Toundi. Bon dimanche.
Dimanche Midi.
C'est ça.
Conversation avec mon voisin, capture des faits de société sous forme d'éphémérides.
Qui est responsable du désordre dans lequel nos grandes villes sont plongées? Nos deux voisins se posent la question et se déclarent pour leur part non coupables. C'est peut-être là le problème, nous rejetons sans cesse la faute sur l'autre et cela contribue sans doute à nous maintenir dans la situation actuelle. Voici Conversation avec mon voisin, une chronique de Valérie Dikos Oumarou.
Le désordre ne plaît à personne et nous sommes nombreux à nous en plaindre quasiment tous les jours. Nous sommes unanimes pour dire que les choses iraient mieux s'il y avait un peu plus d'ordre. Dans nos administrations, notamment tout ce qui est service public, le désordre nous perd du temps, nous coûte de l'argent et finit par nous décourager. Notre découragement est à son comble lorsqu'on regarde les rues de nos grandes villes et lorsqu'on visite nos grands marchés. Ce sont des jungles où la loi du plus fort et très souvent la loi du plus désordonné règne. Nous nous plaignons du désordre et nous ne faisons rien pour que les choses aillent mieux. Notre sport favori est de rejeter la faute sur les autres parce que, bien sûr, ce n'est jamais nous la cause. C'est peut-être ce qui rend les choses inextricables. Puisque nous n'admettons pas notre responsabilité, nous sommes loin de nous en sortir. Mon voisin, que je rencontre lundi en fin de journée, me parle lui aussi de désordre. Mon cher voisin, je ne sais pas pourquoi j'ai souvent pensé que ceux qui sont au sommet de la société étaient plus ordonnés que nous. J'ai toujours naïvement cru que c'était l'homme de la rue, le citoyen lambda, qui était en grande partie responsable du désordre ambiant. Ce que j'ai vu au terme des cérémonies du 20 mai à Yaoundé m'a effrayé. Une fois le président de la République parti, personne pour respecter l'ordre protocolaire. Tous veulent partir au même moment. Je vous laisse imaginer la pagaille. Pour ceux qui cherchent l'origine de notre désordre, il y a peut-être là un début de réponse. Mardi, mon voisin est amusé. Il a lu dans la presse de nombreux articles sur une pommade miraculeuse qui serait illégale et en passe d'être interdite de vente. À la manœuvre, l'ordre des pharmaciens. Il regarde d'un mauvais œil cette pommade moins chère qui soigne tout et qu'on trouve partout. Allez savoir pourquoi le baume François fait plus peur aujourd'hui que le Smolnobisik à son époque. Mercredi, je dis à mon voisin que j'ai appris que 17 moutons ont été mis à mort à Douala pour cause de divagation en zone urbaine. J'avais cru que la récente note du préfet ne concernait que les bœufs. Peut-être que les moutons ont pensé comme moi et se croyaient à l'abri. Ceux des moutons qui ont échappé devraient aller parler aux poules, chèvres et autres canards et chiens. Le temps de la vadrouille en zone urbaine à Douala ne concerne pas que les vaches. Jeudi, mon voisin est fatigué. Fatigué d'entendre régulièrement ces annonces qui nous prédisent la fin des délestages d'électricité. L'autre jour, en grande pompe, on nous a dit que 60 mégawatts venaient mettre un terme aux coupures. Lorsque vous vous plaignez, les mêmes qui ont fait ces annonces vous disent que vous n'avez rien compris. On n'a peut-être rien compris, mais on ne voit aucun changement. Vendredi, mon voisin me dit qu'il a aperçu quelques agents de la police municipale dans les rues de Yaoundé. On nous a dit qu'ils allaient se retirer quelque temps, mais on ne nous informe pas de leur retour. Reste à espérer que ces quelques semaines passées loin des rues de la capitale auront servi à les rendre moins agressifs. Votre semaine a sans doute été meilleure que la nôtre. À dimanche prochain.
Vous écoutez Dimanche Midi sur l'ensemble du réseau radio de la CRTV.
Face à la rédaction ce dimanche, le sénateur Samuel Obama-Sam, vice-président de la sous-commission de l'éducation et de l'APF, l'Assemblée parlementaire de la francophonie, bienvenue dans ce studio.
Merci, merci madame et chers consoeurs.
Les parlementaires de la francophonie ont rendez-vous à Yaoundé du 28 au 30 mai 2024. Ce sera dans le cadre de la 30e conférence régionale Afrique. Recours au dialogue politique et fonctionnement des institutions, c'est le thème retenu pour cette rencontre internationale. Qu'est-ce qui justifie le choix de ce thème?
Le thème est choisi par l'APF. Et pas par l'organisation camerounaise. Au regard de l'actualité, situation politique dans certaines régions d'Afrique, l'APF a choisi ce thème-là pour qu'on en débatte. Parce que nous sommes dans plusieurs situations, dans des conflits et des positions qui demandent le dialogue, la concertation, que des gens se parlent, que les gens tombent d'accord ensemble sur un certain nombre de choses.
Et c'est un thème assez évocateur. Nous sommes rendus à la veille d'importantes échéances électorales.
S'agissant du Cameroun, le président de la République a toujours été ouvert au dialogue, a toujours parlé d'une démocratie apaisée. Et je crois que le Cameroun se retrouve dans ce thème-là sans beaucoup de difficultés.
L'Assemblée parlementaire de la francophonie a également pour objectif d'accroître la solidarité entre les institutions parlementaires. Jusqu'où peut aller cette solidarité dans le contexte sociolinguistique qui est le nôtre ? marqué par la cohabitation de deux langues officielles.
On n'a pas deux parlements différents, on n'a qu'un seul parlement, une assemblée nationale et un sénat, où les ressortissants sont des deux cultures, de culture anglaise et de culture française. Tout se passe bien au parlement, les députés sont dans les groupes pour lesquels les électeurs les ont votés. Je parle du RDPC qui est mon groupe, il y a des ressortissants, des régions de culture anglophone et nous de culture francophone. Dialogue à ce niveau-là, je ne pense pas. Parce que quand on parle de dialogue, on subodore un conflit latent ou réel. Non, nous ne l'avons pas au niveau du Parlement.
L'Assemblée parlementaire de la francophonie est un lieu de débat et d'échange. Elle est la vigie de la démocratie. Qu'est-ce que cette instance a apporté de concret aux États membres de la région Afrique qui compte à ce jour pas moins de 30 pays. Quelles sont les batailles gagnées par l'APF en Afrique sur le plan démocratique?
Ce serait fastidieux et assez difficile d'évaluer quantitativement ce que l'APF a fait, mais l'APF a été de tous les combats dans la résolution des conflits, dans le contrôle des élections, même des processus démocratiques. L'APF a toujours accompagné les pays africains.
Alors, sénateur Samuel Obama-Sam, quelle est la philosophie qui sous-tend la rencontre internationale de Yaoundé? Quelles sont vos projections au sortir de cette rencontre internationale de haut niveau?
C'est naturel, on veut sortir d'ici renforcé et prêt à remplir nos devoirs parlementaires internationaux, c'est-à-dire dans le cadre de l'APF, dans le cadre de l'encadrement des processus démocratiques, dans le cadre de l'assistance des parlements, que l'APF Région Afrique sorte plus solidaire, parce que le problème, souvent, c'est les instabilités politiques ici et là. On a un pays qui a procédé à des élections, on a élu un président, et puis deux jours après, il y a un coup d'État, il y a un comité militaire, et le Parlement est dissous. Tout cela crée une certaine...
Le Parlement se sent fragilisé dans les contextes de crise, observé ça et là.
Voilà, fragilisé, non, on l'efface même souvent, il n'existe pas. Tant qu'il y a des transitions...
Alors vous vous battez pour la survie des institutions parlementaires.
Pas seulement des parlements, mais de la démocratie, qu'elle soit parlementaire, puisque les parlements sont l'émanation des peuples. Donc ça ne peut être que notre souci, que les parlements continuent à exister, à jouer leur rôle de vigile et de garant de la démocratie.
Promouvoir une bonne gouvernance démocratique, c'est également l'une des missions dévolues à l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Les résolutions de l'Assemblée peuvent-elles influencer le fonctionnement des États? Si oui, comment?
Les États sont souverains. Nous n'avons que des avis à émettre. Comme dans nos pays, le Parlement émet des avis. Maintenant, il y a des exécutifs qui ont leur façon de voir, puisqu'ils sont plus en contact direct avec certaines réalités que le parlementaire peut-être n'a pas. Mais on donne des avis et ces avis sont souvent très pris en compte par les États.
Monsieur le vice-président en charge de la sous-commission de l'éducation et de l'APF, quelles sont les délégations qui prendront part aux travaux de Yaoundé, les travaux annoncés du 28 au 30 mai prochain?
Il y a une bonne vingtaine de pays qui seront présents à Yaoundé africain. Et puis, il y aura des délégations du Canada. Et il y a des pays africains qui ne sont pas membres de l'APF et qui sont des observateurs qui seront aussi là, comme l'Angola.
Comment est-ce que vous évaluez à ce jour la coopération entre le Cameroun et l'APF? Qu'est-ce que les parlementaires camerounais y gagnent au-delà de la formation et du renforcement des capacités?
De la visibilité pour leur pays. Le fait d'être là, nous sommes des représentants du Cameroun, comme la vitrine du Cameroun.
Et au-delà de la visibilité?
En coopération, l'APF coopère beaucoup avec le Cameroun.
Quels sont les faits d'armes de l'APF au Cameroun?
Nous avons bénéficié de l'accompagnement multiforme de l'APF au Cameroun. Par exemple, dans les domaines d'équipement, cet organisme interparlementaire nous a appuyés à travers ses programmes successifs PADOC, Noria et Numérique conçus pour l'assistance au Parlement. La modernisation de notre système de retransmission des informations, plus connu sous le nom de la Web TV, en ce qui concerne l'Assemblée nationale et le Sénat est sur cette voie également. Et dans les domaines de formation et de renforcement des capacités, nos collaborateurs continuent de bénéficier de l'accompagnement de l'APF. Et à titre d'illustration, on peut mentionner le séminaire tenu ici même à Yaoundé en octobre 2022 grâce au concours de l'APF en collaboration avec l'Université Senghor d'Alexandrie.
Il s'agit donc d'un partenariat gagnant-gagnant.
Tout à fait.
Rendu pratiquement au terme de cet entretien, votre mot de la fin en rapport avec cette rencontre internationale prévue à Yaoundé du 28 au 30 mai 2024.
Peut-être que les gens se demandent de quoi il s'agit.
Effectivement.
Il s'agit tout simplement de la diplomatie parlementaire. C'est vrai que c'est le président de la République qui est le patron de la diplomatie du pays, mais le Parlement aussi fait de la diplomatie sous la supervision du président de la République. Les orientations de l'État, on ne peut pas aller à l'encontre des actions des États. On les accompagne.
Face à la rédaction ce dimanche, le sénateur Samuel Obama-Sam, vice-président de la sous-commission de l'éducation et de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, merci d'avoir fait le déplacement. La CRTV, merci d'être venu dans ce studio.
C'est toujours un plaisir à renouveler que d'être ici à la radio.
Merci, bon dimanche.
C'est moi qui vous remercie.
Dimanche midi.
Nationale de l'unité, le temps du bilan. Cette année encore, l'aspiration à l'unité s'est illustrée comme l'une des valeurs cardinales auxquelles les Camerounais restent attachés. En témoigne la grande mobilisation observée chez les Camerounais lors de la 52e édition de la fête nationale, à travers le pays, jusque dans la diaspora, avec la participation du plus illustre d'entre eux, le chef de l'État, le président de la République, Paul Biya. Esquisse de leçon d'une célébration historique et mémorable, Dieudonné Ongba.
Nous fêtons la fête de l'unité au palais de l'unité. Il n'y a pas meilleur symbole.
Les Camerounais étaient encore très nombreux ce lundi 20 mai 2024 à battre le pavé à travers le territoire national lors des parades civiles et militaires. L'une des articulations de la célébration de la fête nationale de l'unité. À côté des défilés, d'autres réjouissances, indices et vitrines de la mobilisation des populations qui ira jusqu'à la diaspora. Mais qu'est-ce qui aura donc tant expliqué ce déploiement tous azimuts quand on sait que le Cameroun, c'est environ 250 groupes ethniques qui peuplent les quatre aires culturelles le composant sur 10 régions du pays? Qu'est-ce qui expliquerait alors cette union de cœur perceptible des jours durant et avec pour point de convergence et apothéose le 20 mai dans ce pays qui compte des centaines de partis politiques? C'est qu'il y a une raison fondamentale et transcendantale qui embrase les populations de l'État du Cameroun, un État un et indivisible, raison qui habite les Camerounais, tous les Camerounais, à commencer par le plus illustre d'entre eux, le président Paul Biya. Raison qui fonde sa pertinence sur la nécessité d'une unité nationale puisée dans la diversité. Et c'est ce sentiment fort exprimé qui constitue la première leçon de ce 20 mai 2024. La présence de nombreux Camerounais, dont celle des plus hautes autorités de l'État, le dit. Les messages et d'autres symboles aussi. Jean-Marie Mama, chef traditionnel et sénateur, à Bassadou, ancien membre du gouvernement.
L'idée qui a habité le président de la République de l'époque, président Ahmadou Ahidjo, avec tous les acteurs politiques, l'Assemblée nationale, tous les Camerounais de cette époque-là, d'instituer cette fête. Je crois que l'histoire retiendra toujours que l'inspiration aura été la meilleure. On peut se poser des questions maintenant, 52 années plus tard, si en 1972, la fête de l'unité nationale n'avait pas été créée. Je ne sais pas comment parlerait-on du Cameroun en ce moment.
C'est une belle journée, à l'occasion d'une très belle fête. Nous avons à la tribune, à la porte de la fête officielle. La participation a été aussi massive que d'habitude. Et une fête à la hauteur des attentes. Une très belle fête, à l'occasion de cette journée nationale, cette journée de 20 mai 2024. C'est une occasion où beaucoup de gens se retrouvent. On n'a pas toujours l'opportunité de se retrouver comme ça et c'est avec plaisir, c'est un grand plaisir.
La démonstration de force du 20 mai dernier, illustrée par la nation et son armée, montre par ailleurs que l'attachement à l'unité nationale n'est pas une simple vue de l'esprit. Les Camerounais, que certains tentent de dépeindre en un peuple divisé, ont au fait de le démentir et ont saisi l'occasion du 20 mai pour davantage resserrer les rangs et confondre les démons de la division. Et c'est le commun des Camerounais qui parle ainsi.
La cérémonie du 20 mai 2024 est à l'image du Cameroun. Donc, sur tout le monde, du nord-ouest, à l'est, à l'ouest. Donc, nous sommes venus ici partager la joie, la ferveur avec le peuple présidentiel. Donc, nous sommes très satisfaits, très heureux.
Et je suis contente d'être ici pour communier avec mes frères et sœurs camerounais. Cette fête qui est la fête de tous les Camerounais. Et nous sommes ici dans la maison des Camerounais. Et nous sommes contents d'être là. Nous attendons l'arrivée du chef de l'État et de la première dame pour pouvoir leur serrer la main et fêter avec eux.
Le Palais de l'Unité n'a pas aussi bien porté son nom qu'aujourd'hui. C'est la fête de l'Unité. C'est la fête de tous les Camerounais.
Et la troisième grande leçon coule de source. Tel que se décline le thème de la célébration, une fois unis, les Camerounais doivent rester concentrés autour de leur chef de l'État, question de relever les défis de paix et de prospérité. Docteur Moussa Oumarou, leader religieux, Jean-Marie Bama, sénateur et chef traditionnel.
Nous pensons que c'est une occasion pour nous de lancer encore un appel à tous les Camerounais pour que cette fête nous permette davantage d'assurer la sécurité et la paix au regard de tout ce qui se passe dans le monde. Davantage, nous pensons que tout Camerounais doit agir à son niveau pour qu'il y ait plus de paix, pour qu'il y ait plus de sécurité, pour que les élections à venir se passent dans de bonnes conditions.
Je rejoins le chef de l'État quand il dit que nous passerons tous, mais le Cameroun restera. Ce sera toujours le Cameroun. Chacun devra donc, en son époque, quel que soit le contexte, servir ce pays et transcender tout ce qui peut nous désunir, tout ce qui peut nous opposer au seul nom du Cameroun et de son unité.
L'unité nationale, valeur à consolider à tout prix et on dirait même à tous les prix.
Jouer la vie. Potenu a quoi binoa, inuanga yo anie, one mama dang yvu, atamane, one mama dang yvu.
Dimanche midi.
Dimanche midi.
Dimanche midi.
Dimanche midi, le dossier de la rédaction.
Effroyable. Sur 100 000 naissances vivantes, 406 femmes perdent la vie pendant l'accouchement. Au Cameroun, le taux de mortalité maternelle reste encore élevé. Dans la plupart des cas, les causes de cette mortalité maternelle sont dues aux hémorragies postpartum ou aux maladies hypertensives. Selon les experts, le taux de décès pendant l'accouchement peut être inversé, à condition de bien entourer la femme et de l'accompagner efficacement à l'heure de l'accouchement. En page jaune de dimanche midi, l'accouchement, première cause de mortalité chez les femmes au Cameroun, c'est une enquête de Chris Patricia Lulouga de CRTV Littoral.
Toutes les deux minutes, une femme meurt pendant la grossesse ou lors de l'accouchement. L'Organisation mondiale de la santé observe en effet que les décès maternels ont augmenté ou stagné dans le monde au cours de la dernière évaluation. Les causes du drame sont de plusieurs ordres. Docteur Salamatou Soulé, gynécologue obstétricien.
Les principales étiologies de mortalité maternelle dans notre contexte sont premièrement les hémorragies. Ensuite, nous avons les maladies hypertensives en grossesse, principalement la pré-éclampsie et l'éclampsie. Et enfin, nous avons en troisième position les infections.
Si la première cause de mortalité maternelle demeure l'hémorragie postpartum, les complications de l'hypertension sont de plus en plus liées à bon nombre de décès enregistrés. Docteur Rodrigue Idi, gynécologue obstétricien.
L'éclampsie, les éclampsies, HEP syndrome et l'hématome rétroplacentaire, toutes les complications qui vont avec. Donc, ces étiologies graves sont responsables des décès maternels pendant l'accouchement et pendant la grossesse.
D'autres causes non médicales participent également à la mortalité maternelle. Docteur Gertrude Mukuri, gynécologue obstétricien.
Il y a le concept des trois retards. Le premier retard, c'est le retard, la décision d'aller consulter, ignorance, manque de connaissances, manque de soutien familial ou communautaire. Ensuite, nous avons la deuxième barrière qui est la distance pour arriver à l'hôpital. Ici, nous sommes en zone urbaine, c'est un peu moins qu'en zone rurale. Il y a des zones vraiment enclavées, mais n'ont pas accès aux centres de santé. Les seuls moyens de transport sont les motos. Pour arriver à pied. Maintenant, il y a le troisième retard qui est le retard du système de santé qui peut être du plateau technique inadéquat, manque de personnel et tout le reste qui entraîne la mort.
Pour des milliers de familles, l'émerveillement de l'accouchement est assombri par le drame que représentent les décès maternels. Cependant, rassurent les spécialistes, aucune mère ne devrait avoir à craindre pour sa vie en donnant la vie. Il est possible d'inverser la tendance actuellement observée. Le gouvernement camerounais multiplie des actions stratégiques pour limiter le taux de mortalité maternelle, notamment la couverture santé universelle, le programme Chèque Santé dans le septentrion, la distribution des moustiquaires imprégnés à longue durée et le traitement préventif du paludisme pour les femmes enceintes. La sensibilisation des populations s'inscrit également parmi les urgences de l'heure. Docteur Salamatou Soulé.
Les femmes enceintes devraient effectuer des suivis prénataux de bonne qualité. Donc ça voudrait dire que chaque femme enceinte devrait réaliser au moins 8 consultations prénatales lors de chaque grossesse et ces consultations devraient être réalisées par un personnel qualifié. Ces femmes enceintes devraient pouvoir aspirer à un accouchement sécurisé, c'est un accouchement effectué par un personnel qualifié dans une structure sanitaire qualifiée. À ce niveau, nous indexons les accouchements réalisés dans les centres de santé du quartier par des personnels non qualifiés.
L'équité dans les soins de santé donne à chaque mère, quelle qu'elle soit et où qu'elle vive, des chances égales d'accoucher sans risque et d'envisager un avenir sain et serein avec sa famille. Douala, Chris Patricia Lulouga pour Dimanche Midi.
Dans le Nord, l'accès aux soins de santé de qualité demeure un défi permanent pour les femmes enceintes, surtout en zone rurale. Malgré les efforts consentis par les pouvoirs publics pour relever les soins de santé et réduire considérablement le taux de mortalité maternelle et infantile, il existe encore des poches de résistance. Les rites traditionnels et les accouchements à domicile non assistés restent une pratique courante. Iya Hacham Alim nous appelle de Garoua.
Les vagissements des nouveau-nés font toujours frémir. Aïssatou Amadou, la sexagénaire vivant au quartier Ngalbidje à Garoua, est une accoucheuse traditionnelle reconvertie en matrone.
Je suis la matrone au centre de santé intégré de Ngalbidje. J'ai commencé les activités au centre de santé de Ngalbidje en 2019. C'est l'Antelchek Santé qui nous a recrutés. On cherche les femmes au quartier qui accouchent à la maison pour les amener au centre de santé. Avant que je travaille dans ce centre de santé, je fais accoucher des femmes, mais je ne connais pas le nombre. Et ma grand-mère, j'étais avec elle. C'est elle qui m'a appris à faire accoucher les femmes.
C'était en quelle année?
En 95-16, comme ça. C'était à Maroua. Il y a une voisine là. J'étais avec elle et je l'ai fait accoucher un garçon. Et c'est comme ça que je suis partie dans cette activité.
Dans le Nord, les accouchements à domicile confortent le poids de la tradition, surtout en zone rurale. Maïmouna est originaire du village Wourokessoum.
J'ai accouché tous mes deux enfants dans mon village. Lorsque je suis enceinte de 8 mois, je vais chez mes parents. Dès que le travail commence, ma mère fait appel à une accoucheuse traditionnelle. Elle vient m'assister et me fait accoucher sans problème. La vieille femme qui exerce ce métier est une expérimentée. Elle fait partie des accoucheuses traditionnelles les plus sollicitées à Wourokessoum. Parce que l'hôpital est très éloigné d'ici et pour y accéder, ce n'est pas facile, surtout en saison pluvieuse.
Amadou Roufaou, chargé de la communication pour le changement social et comportemental auprès de la délégation régionale de la santé publique pour le Nord.
La problématique des accouchements dans les communautés peut avoir beaucoup de causes et des causes profondes. La croyance que la communauté ou que les leaders communautaires ont vis-à-vis de l'accouchement dans la communauté, l'ignorance des risques pour le bébé, la maman, l'ignorance de la gravité des complications qui peuvent survenir même si elle venait accoucher dans la communauté par une matrone et après l'accouchement pour la mère et son bébé.
Si le phénomène d'accouchement à domicile dans la ville de Garoua est réduit à sa portion la plus congrue, il existe cependant des cas régulièrement pris en charge dans les formations sanitaires. Blandine Mouda est le chef de centre de santé intégrée de Roumdéadia.
La majorité des femmes se retrouvent en train de donner naissance à la maison, soit parce que le travail a été rapide, et dans la majorité des cas, c'est souvent les femmes qui accouchent pour la première fois, appelées communément primipares. Où que l'accouchement s'est déroulé, le personnel de santé a l'obligation de s'occuper de cette femme-là et de son nouveau-né afin qu'il puisse se maintenir en bonne santé. Ensuite, cette femme est gardée pour une durée de 10 heures dans la formation sanitaire, ce que nous appelons communément la surveillance postpartum. Il peut également arriver que la femme qui a accouché à domicile n'ait même pas suivi sa consultation prénatale. Dans ce cas, lorsque nous recevons le couple mère-enfant, nous allons tester cette femme pour le VIH. S'il arrive qu'elle est testée positive, nous allons mettre l'enfant sous traitement et également la mère en attendant les prochaines séances de retesting pour l'enfant.
Amadou Roufaou.
Le ministère de la Santé publique et différents partenaires ont mobilisé des ressources dans le renforcement du plateau technique, dans la formation des binômes pour être à même de réaliser des césariennes de qualité d'urgence, la dotation des moto-ambulances dans les différentes formations sanitaires reculées, les différentes sensibilisations de proximité par les agents communautaires, l'implication même des accoucheuses traditionnelles dans l'analyse du risque.
Ceci pourrait éviter que les signaux d'alerte se multiplient et qu'aucune femme ne soit réduite à un symbole discriminatoire. La résolution des problèmes de santé des femmes dans le Nord par les pouvoirs publics est un impératif pour rompre avec les idées reçues et surtout briser les rôles socialement construits. Aucune femme ne doit donc perdre la vie en donnant la vie. Garoua, Ia Chamalim, pour Dimanche Midi.
Dimanche Midi, l'invitation.
La Semaine mondiale pour l'accouchement est l'occasion de faire évoluer les pratiques en faveur du respect de la naissance. Plusieurs Camerounaises s'éteignent en donnant la vie. Quelles sont les causes de ce drame social et sanitaire? que propose le corps médical pour prévenir les décès maternels et sauver la vie des femmes. De l'avis du docteur Bernard Otabila, gynécologue, obstétricien, sexologue, la plupart des décès maternels sont évitables. Prescription et protocole d'intervention clinique à suivre dans cet entretien mené par Liliane Mevoun.
Docteur Bernard Otabila, bonjour.
Bonjour Liliane et bonjour à nos nombreux auditeurs de la CRTV.
Alors, l'accouchement constitue la première cause de mortalité des Camerounaises. 4000 femmes meurent chaque année en donnant la vie. Quelles sont les causes de cette mortalité d'après vous?
Je pense qu'il est d'abord important de nous entendre sur la définition de la mortalité maternelle. C'est le nombre de décès liés à l'accouchement, liés à une pathologie qui est inhérente à la grossesse, ou alors la période qui survient après l'accouchement. C'est ça qu'on appelle la mortalité maternelle. Chez nous, elle est de 669 cas pour 100 000 femmes. Ça veut dire que lorsque 100 000 femmes camerounaises accouchent des enfants vivants, il y a 669 qui décèdent.
Qui décède, l'enfant ou la femme? Comme c'est maternel.
C'est la femme. Voilà. C'est mortalité maternelle. Oui, c'est la mère.
Que faut-il faire pour inverser la tendance si possible?
Je pense qu'il est bon de nous interroger d'abord sur les causes de la mortalité maternelle. Il faut dire que la première cause de mortalité maternelle au Cameroun, ce sont les hémorragies. C'est les saignements de ces femmes-là qui sont cataclysmiques pendant l'accouchement. Et c'est à peu près 35 à 40% seulement les hémorragies. Deuxième cause, c'est l'hypertension de la grossesse, qu'on appelle encore la gestose ou encore l'hypertension gravidique, qu'on appelle régulièrement la prééclampsie, caractérisée par l'hypertension chez la femme, caractérisée par l'œsodème, caractérisée par beaucoup de choses, ce qui fait que la prééclampsie est la deuxième cause. Ensuite, il y a les infections chez la femme, puis les causes liées aux avortements provoqués, qu'on appelle les avortements criminels encore, appelés IVG. Pour inverser la tendance, il est bon que nous mettions un accent sur les grossesses indésirées. Il faut limiter les grossesses indésirées parce que les 90% des grossesses indésirées et les morts y afférents sont chez nous en Afrique, dans le tiers monde. Comment faire pour diminuer le nombre de grossesses indésirées? C'est simple. Première des choses, il faut consulter. Il faut aller à l'hôpital lorsqu'on est enceinte. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte, selon les études récentes, que plus de la moitié des femmes qui ont des grossesses ne vont pas à l'hôpital.
Elles sont Alors j'allais sans... venir, docteur, sans vous couper. Parmi les causes de la mortalité, est-ce qu'il n'y a pas le fait que les femmes n'aillent pas à l'hôpital?
Si, voilà. C'est la première des causes. Parce que si la première cause des décès chez la mère qui accouche, c'est les hémorragies, vous comprenez qu'une femme qui accouche hors de l'hôpital, elle ne va pas avoir le traitement qu'il faut et la prise en charge adéquate qu'il faut. Alors, pour limiter ces hémorragies cataclysmiques, il faut que la femme accouche dans un hôpital, dans un service de santé spécialisé, là où il y a un personnel qualifié, là où il y a des équipements adéquats. Les accouchements à domicile sont à proscrire parce qu'il y a des infections néonatales qui compliquent tout. Donc, première des choses, il faut tout faire pour limiter les grossesses indésirées. Les grossesses indésirées nous renvoient à un autre chapitre. Comment prévenir la grossesse? On appelle ça la contraception. Au Cameroun, selon le ministère de la Santé, on est en train de promouvoir ce qu'on appelle la double contraception.
C'est-à-dire?
La contraception, ça veut dire déjà une femme qui régularise ses naissances, qui espace ses naissances, qui accouche quand elle veut. Ça veut dire que la contraception, c'est le fait de permettre à une femme de planifier ses grossesses. Il y a les contraceptifs donc hormonaux, dont les pilules, les contraceptifs qu'on peut placer, des implants. Il y en a plusieurs, des injections et tout ça. Le principe de double protection, c'est donc qu'on utilise le préservatif qu'on connaît comme moyen de protection. Et puis notre méthode qui peut être la pilule, qui peut être le spermicide, qui peut être autre chose. Il faut limiter les grossesses indésirées et puis renforcer le principe de la contraception pour diminuer la mortalité maternelle et partant la mortalité des femmes qui ont conçu de façon désordonnée sans un contrôle préalable.
Quelles sont les solutions à apporter aux hôpitaux pour réduire ce taux de mortalité encore très élevé dans notre pays?
La réponse coule de source. Ça veut dire qu'il faut que les hôpitaux soient équipés des plateaux qui permettent aux femmes qu'elles soient enceintes de faire les consultations prénatales. Les consultations prénatales, déjà, ça permet aux prestataires de voir les pathologies de la femme enceinte. On appelle ça consultation prénatale orientée. On s'oriente donc sur les pathologies, sur les problèmes que la femme présente. Donc, il faut faire la consultation prénatale. Alors, le personnel de santé, le gynécologue, la sage-femme va donc voir quel est le problème spécifique de cette femme et on va lui proposer une prise en charge adéquate. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, il faut un personnel qualifié. Il faut donc mettre l'accent sur la formation. Mettre dans les services de santé, les hôpitaux centraux, les hôpitaux généraux, les hôpitaux de district, même les cases de santé, les centres de santé, des personnels qui sont à même de prendre en charge des pathologies obstétricales. Notamment les sages-femmes qui doivent savoir prendre en charge. On a dit la première cause, ce sont les hémorragies. Lorsqu'une femme vient avec une CMA, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc un personnel qualifié, un personnel technique adéquat. Et puis une vulgarisation, comme ce que vous êtes en train de faire. Ça nous permet de dire aux femmes, de dire aux Camerounais, allez à l'hôpital lorsque la femme est enceinte, allez consulter pour avoir les soins adéquats, allez consulter pour avoir les conseils qu'il faut chez les personnels de santé.
Quel peut être l'apport des femmes elles-mêmes pour réduire ce taux de mortalité lié à l'accouchement?
Je crois que l'une des choses, c'est l'éducation. Parce que la plupart des femmes qui ne vont pas à l'hôpital, c'est les femmes qui sont les moins éduquées. Donc il y a le niveau social, le niveau de scolarisation. Donc il faut mettre l'accent sur nos femmes, nos jeunes filles qui sont à l'école, de savoir que c'est avec l'école, avec la formation, qu'on aura la possibilité de connaître ce qu'il faut faire. On appelle ça les éducations sanitaires chez les femmes. Deuxième des choses, il faut faire en sorte que lorsque la femme est à l'hôpital, quel est le soin adéquat? Le personnel de santé qualifié. Troisième des choses, créer le pâté technique adéquat, mais surtout l'éducation des femmes. Les femmes elles-mêmes elles doivent savoir que la meilleure prise en charge, c'est dans un service de santé, à l'hôpital, pas à la maison.
Docteur Otabla, quelle est la place de la grossesse précoce dans la lutte contre la mortalité maternelle?
La grossesse précoce est l'un des facteurs de risque, l'un des facteurs prédisposants chez les jeunes filles qui, justement, ont commencé très tôt les rapports sexuels. Il faut les éduquer, comme je viens de dire, mais surtout leur demander de pouvoir planifier leur grossesse pour ne pas avoir les grossesses indésirées. Vous voyez, c'est une chaîne. C'est les grossesses indésirées qui sont l'une des premières causes qui déclenchent indirectement une mortalité maternelle élevée. Donc, lorsqu'une femme a planifié sa grossesse, elle ne sera pas tentée d'aller avorter. Il faut le dire, c'est nous au Cameroun. Le législateur ne s'est pas encore penché là-dessus, mais il faudrait bien qu'en donnant la possibilité, dans un cadre juridique adéquat, aux femmes qui veulent interrompre une grossesse, d'avoir cette possibilité-là dans un cadre qui est préalablement défini par l'État. Pour qu'on puisse offrir un cadre d'avortement sécurisé, qu'on appelle aujourd'hui à tort les interruptions volontaires de la grossesse, parce qu'en fait, ce sont les avortements criminels, parce qu'on n'autorise pas ça au Cameroun.
Que faut-il attendre également de la couverture santé universelle pour relever certains défis en matière d'accouchement aujourd'hui? On en parle tellement ces derniers temps.
Je voudrais simplement souhaiter que la couverture santé universelle, elle soit effective. Les slogans sont bien scandés, mais sur le terrain, ce n'est pas ça.
Alors,
parce que la couverture santé universelle, ça voudrait dire lorsqu'un patient vient, il devrait pouvoir être pris en charge avant même qu'on le demande de régler les frais liés à ses soins. Oh, dans nos hôpitaux, c'est malheureusement le contraire. Il faut d'abord payer ci, il faut payer ça. Et moi, je dis, pour le décrier, ce n'est pas normal.
Qu'est-ce que vous souhaitez en matière de couverture santé universelle, puisque le problème de l'accouchement se pose quand même avec acuité là?
Je demande au gouvernement camerounais de bien financer la couverture santé universelle. Je connais les pays comme au Gabon à côté, partout où j'ai été. Par exemple, les Camerounais qui boivent beaucoup de bière. On prélèverait 5 francs par bouteille de bière pour la couverture santé universelle. On aurait des milliards. Des milliards en très peu de temps.
Mais au Gabon, ça n'a pas beaucoup marché aussi.
Au Gabon, ça a marché parce qu'ils ont associé les opérateurs téléphoniques. Il y a RTL Gabon qui paye, comme Orange ici, MTN. On devrait les astreindre à donner une partie de cet argent pour mettre au niveau de la couverture santé universelle. C'est une solution. Les spécialistes vont tabler là-dessus qu'on aurait suffisamment d'argent pour la couverture de la santé universelle. Donc, il y a un problème de financement. Le deuxième problème, c'est la distribution. Qu'on sache une fois pour toutes, redistribuer cet argent qui a été prélevé pour la couverture de santé universelle.
Que
cet argent-là ne serve pas à autre chose.
Que faut-il maintenant à l'occasion de la célébration de la fête des mères ce dimanche et de la semaine nationale de l'accouchement? Quel est le message du gynécologue?
Mesdames, je voudrais vous prier de vous rendre souvent à l'hôpital lorsque vous êtes enceinte. Évitez les grossesses indésirées.
Et pour la maman qui nous a tous mis au monde, sa célébration c'est aujourd'hui aussi, c'est dimanche.
La maman, elle est la reine du monde. Elle est la génitrice qui a mis au monde et certainement des hommes comme le chef de l'État, comme moi qui vous parle, comme les grands hommes. C'est une maman qui nécessite une célébration. Et que les hommes sachent qu'avoir une femme, c'est une grâce, c'est une chance. Lorsqu'on est marié, Je dis aussi, les femmes mariées, sachez que vos maris sont également pour vous un trésor à la maison. C'est la complémentarité, ce n'est pas la compétition.
Docteur Bernard Otabela, gynécologue obstétricien, sexologue, merci d'avoir été à Dimanche Midi.
Je dirais toujours merci à la CRTV pour ce qu'elle fait, pour la vulgarisation de la bonne information. Parce que notre façon de participer à l'émergence du Cameroun, c'est la bonne santé des Camerounais.
Dimanche Midi, sport.
Rendu au terminus de Dimanche Midi, DM Sport, Handball Challenge Trophy, messieurs 2024, apothéose hier soir au Palais Polyvalent des Sports, 5 pays, 5 jours de compétition, un vainqueur. Le Cameroun maintient sa suprématie dans la sous-région Afrique centrale, dans les catégories U18 et U20. Mais au-delà de ce sacre, le Challenge Trophy vient relancer le handball des jeunes dans les 7 zones de développement à travers l'Afrique, notamment en Afrique centrale où l'insuffisance des infrastructures et des formateurs est un frein au développement de cette discipline olympique. État des lieux du handball en Afrique centrale, dont Dimanche Midi Sport avec Samuel Billon. Bonjour et bon dimanche Samuel.
Bonjour et bon dimanche Florence. Le Challenge Trophy est une opportunité que la Fédération internationale de handball offre à tous ses pays membres. Objectif, promouvoir le handball à la base pour préparer l'élite de demain, notamment pour les pays africains en retard de développement dans cette discipline. En témoignent les contre-performances en cascade lors des grands événements, championnats du monde, Jeux olympiques. L'Afrique brille beaucoup plus par la participation. À travers le Challenge Trophy, les pays les plus méritants depuis les zones de développement peuvent désormais prétendre à se hisser sur le toit du monde, à l'un de certains experts de la Fédération internationale de handball.
La Fédération internationale organise ce qu'on appelle le Challenge Trophy sur chaque continent. Au niveau de l'Afrique, il y a 7 zones. Il y a déjà chacun un champion de chaque zone. Après, il y a une finalité continentale au niveau de l'Afrique. Après, il y a une finalité intercontinentale avec les Amériques, l'Asie, l'Europe. Et le vainqueur de cette compétition-là va directement au championnat du monde, donc l'année prochaine, en catégorie U18 et U20. Donc la Fédération internationale paye les transports, paye l'hébergement pendant une semaine, pour le développement et pour les jeunes, surtout les jeunes, les jeunes.
Les pays membres bénéficiaires de ce programme ont donc l'occasion de développer les compétences de leurs officiels, arbitres et entraîneurs.
Les U18, c'est ceux qui ont déjà bien travaillé dans les académies, dans les clubs. Parce que moi, j'ai eu la chance de venir ici chez vous au mois de février faire des formations d'entraîneurs. La licence D, c'est-à-dire que c'est la base, c'est vraiment la formation, comment construire une séance, comment animer des séances. Après, ça monte jusqu'à la licence CBA, où là, c'est vraiment le niveau international, bah, par exemple, pour être entraîneur d'une équipe nationale à la CAN. On a 8 pays dans cette zone-là, et il n'y en a que 5. C'est aussi l'organisation pour avoir des passeports, comment s'organiser pour que la fédération travaille en amont, fasse des détections et propose des équipes de jeunes en U18 et U20. Donc, il y a la succession des deux catégories qui permettent de continuer et peut-être d'aller dans les équipes nationales.
Cameroun, République centrafricaine, Tchad, Congo et République démocratique du Congo, état des lieux moribonds pour le handball dans la zone Afrique centrale. Hervé Alambatna, secrétaire général de la Fédération tchadienne de handball, et Jean-Jacques Matamali, premier vice-président de la Fédération centrafricaine de handball.
Le handball centrafricain traverse depuis au moins une décennie des moments très, très, très difficiles de son existence. En matière d'infrastructure, ça, il ne faut pas en parler. On a presque un seul stade qui se joue à plein air. Il n'y a pas assez de personnel. Les entraîneurs, les arbitres. Et puis, ça n'attire pas beaucoup. Il n'y a pas de mécènes. Les défis sont énormes pour le handball. On n'a pas vraiment mis l'accent sur le championnat dames pour la simple raison qu'on n'a pas encore véritablement du personnel dans l'encadrement.
Au Tchad, je me rappelle que ça fait plusieurs années qu'on est sorti même des écrans de l'international. On est en train de revenir petit à petit. Ça fait déjà notre deuxième participation parce qu'en 2022, nous avons participé à l'IHF aussi au Congo, Brazzaville. Ça veut dire que nous avons traversé à un moment donné des énormes difficultés où je voudrais même dire que le handball était agonissant à un moment donné. Et donc nous sommes venus le reprendre petit à petit et c'était notre premier essai justement pour voir le niveau de ce travail qu'on est en train de faire en interne là. Qu'est-ce que ça pouvait donner? On a vu les résultats et c'est en train de prospérer. Dans les provinces, on a cette difficulté là d'avoir des acteurs de handball en nombre suffisant pour pouvoir dérouler un championnat.
En plus des difficultés à offrir des programmes de handball de qualité à l'échelle des territoires nationaux,
Les fédérations de la zone font face aux difficultés d'accès aux surfaces de jeu en piteux état, là où elles existent quand même. Programme de développement de qualité propre à chaque fédération, accès aux espaces de jeu avec des cadres techniques compétents, le Cameroun, reconnu comme leader naturel de l'Afrique centrale, n'est pas non plus si bien logé au regard des résultats des sélections nationales et des clubs de plus en plus en demi-teinte. André Betome Epoupa, directeur technique national à la Fédération camerounaise de handball.
Nous essayons de nous adapter à ces difficultés et pouvoir aussi continuer à œuvrer pour que le handball camerounais soit au top niveau. Nous avons une ville comme Douala. Si vous allez à Douala, dans les arrondissements, vous voyez comment le handball se joue. Mais trouver donc une personne ou alors une structure qui peut encadrer, c'est ça qui fait problème. Dans le sud-ouest, il y a déjà un effort qui est fait parce que l'université de Boya est là. Quand on regarde aussi à Tchang, il y en a. Je reviens à ce que j'ai dit, c'est un problème d'encadrement. Il y a des joueurs, il y a des athlètes. Le Grand Nord, nous avons un centre de formation qui est MAGA. MAGA qui est à mesure de vous donner une équipe nationale dans les équipes de U18, même U20. On a deux ou trois joueurs qui viennent de là. C'est une des pépinières pour la relève dans ces régions-là. Mais comme on a dit, c'est l'encadrement.
Le Challenge Trophy vient donc relancer le handball dans la zone Afrique centrale, une zone à la recherche d'un leadership dans l'élaboration et la conduite des programmes intégrateurs.
Il ne faudrait pas qu'on attende simplement les rencontres de l'IHF. Nous sommes la zone 4. Qu'est-ce qu'on peut créer pour la zone 4? Parce qu'il faudrait à un moment donné penser à se développer soi-même d'abord, de créer un projet de développement de la zone 4 en termes de rencontres, en termes de formation, créer un groupe de développement dans ce sens-là, que nous-mêmes d'abord dirigeants, nous soyons en contact permanent pour développer par exemple la formation des entraîneurs, des arbitres, le recyclage. Est-ce qu'on ne peut pas créer une compétition en interne de la zone 4, les minimes, puisqu'il y a déjà junior, cadet? Quels sont les partenaires qu'on peut amener à nous soutenir dans ce sens-là?
Reste à décrocher l'implication des médias et des marques adjuvant à l'éclosion tant espérée du handball en Afrique centrale.
Dimanche midi, édition du 26 mai 2024, entre en gare. C'était une présentation de Florence Mouque. Mise en onde, Chrétien Foucault, Désiré Melingui. Radio assistée par ordinateur, Christian Bessigui. Réalisation, Rose Coco, Yannick Ayama. Coordination, George Collomb, Valérie Dikos Oumarou, directeur des rédactions radio. Supervision, Madeleine Sopikoto, directeur central du pôle radio. Supervision générale, Charles Ndongo, directeur général de la CRTV. Vous pouvez réécouter cette édition cette nuit lorsqu'il sera minuit 15 minutes ou sur Internet à l'adresse www.crtv.cm. Mesdames, Messieurs, bon dimanche. Bonne fête des mères à toutes les mères. À bientôt sur cette antenne.